Bonjour. Pardon, bonjour. Eh, bonjour tout le monde, comment ça va bien? Incroyable. Ça se passe? Tout roule? Pardon, je suis un peu en retard, hein. Hop là. Mais c'est pas grave, vous inquiétez pas, on est là, on est en direct pour assister ensemble à la séance des questions à François Bayrou. Non, ce n'est pas une blague, il va bel et bien y avoir une séance de questions aujourd'hui, mais pas au gouvernement, parce qu'il n'y a pas de gouvernement de plein exercice. Ce sera une séance de questions au Premier ministre, François Bayrou, qui reprend la formule qui avait été inventée par Gabriel Attal et qui se l'applique à lui-même. J'ai cru lire aussi qu'il y avait des débats entre des juristes pour savoir si le projet de loi spécial ne risquait pas de se faire censurer par le Conseil constitutionnel compte tenu du fait qu'il n'y a pas de gouvernement de plein exercice. Et que du coup, le fait pour François Bayrou d'accepter de faire une séance de questions, c'était aussi une manière de montrer si, vous inquiétez pas, regardez, il y a bien un gouvernement à la barre. C'est bon. Voilà. on va voir. Pourquoi c'est les questions au maire de Pau? Pourquoi c'est les questions au maire de Pau? Bah, c'est une très bonne question parce qu'il semblerait, selon toute évidence, que le maire de Pau a été nommé Premier ministre. En plus de ses fonctions de maire de Pau, évidemment, hein, et en parallèle, même plutôt à côté, c'est un side job pour le maire de Pau, qui a été nommé Premier ministre de tout ce qui est République française. Et voilà pourquoi il a été contraint de quitter la ville de Pau, le maire de Pau. Il a été obligé de quitter la ville de Pau pour venir à Paris répondre aux questions des députés. Voilà. Députés qui sont même pas des députés de Pau. Enfin, je veux dire, je vois même pas l'intérêt de leur laisser poser des questions, parce qu'ils n'habitent pas à Pau. Mais bon, il semblerait que ce soit plus ou moins dans les habitudes des institutions. Donc voilà, bon, bah, les députés vont quand même pouvoir poser des questions au maire de Pau. À l'occasion de cette séance, bah, qui va être rigolote, hein, du coup. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On va assister à un solo Q François Bayrou face à l'Assemblée nationale, qui va répondre à toutes les questions qui seront posées par les différents groupes. Voilà quoi. Ça va être une séance dure pour lui. Il est obligé ou c'est un choix cette séance? C'est une bonne question. C'est en partie un choix. C'est la volonté de François Bayrou de répondre aux questions des députés. Je vous rappelle que c'est dans la Constitution, hein, le fait qu'il y ait une séance de questions organisée chaque semaine pendant les sessions ordinaires. Dès lors qu'il y a un Premier ministre en exercice. Alors toute la question est de savoir si on parle d'un Premier ministre en exercice ou d'un gouvernement en exercice. Parce que là, on a un Premier ministre en exercice, mais avec un gouvernement démissionnaire. Donc les questions au gouvernement démissionnaire, ça n'a pas beaucoup de sens parce qu'ils sont démissionnaires, donc techniquement, ils n'ont plus de responsabilité engagée devant l'Assemblée. Premier ministre, lui, il a été nommé. Donc voilà. Donc c'est une volonté de sa part de dire je réponds aux questions des députés. Puis c'est aussi un petit peu obligé parce qu'il ne peut pas trop se permettre de ne pas parler à l'Assemblée nationale alors qu'il est Premier ministre, quoi. C'est un peu le principe d'un Premier ministre. Je vous rappelle institutionnellement que le Premier ministre et son gouvernement sont responsables devant l'Assemblée. N'est-ce pas, Michel Barnier? Pardon. Disons que ça aurait choqué personne s'il avait fait l'impasse. Oh, ça aurait gueulé. Ça aurait gueulé. Il y a deux, trois députés d'opposition qui auraient gueulé et ils auraient eu raison. De dire qu'est-ce que c'est que ce Premier ministre en exercice qui ne vient pas répondre aux questions des représentants du peuple alors que c'est un peu la logique institutionnelle. Ils sont obligés, au regard de la Constitution, de faire une séance de QAG parce qu'il y a eu le vote d'une loi, même spéciale. Alors oui, il y a ça. Oui, en fait, techniquement, oui, t'as raison. En fait, c'est ça le truc, c'est que la démission du gouvernement de Michel Barnier est censée mettre en pause la session ordinaire de l'Assemblée nationale, puisqu'il n'y a plus de gouvernement. Dès lors que François Bayrou est nommé Premier ministre, même s'il n'a pas encore nommé de gouvernement, et dès lors qu'une loi a été votée, alors la session a repris. Et si la session a repris, alors il faut respecter la Constitution qui dit qu'il doit y avoir une séance de questions au gouvernement par semaine en direct sur la chaîne Twitch de Jean Massier. C'est écrit. Donc voilà. Donc c'est un peu obligé aussi qu'ils le font, parce qu'ils n'ont pas trop le choix. Au demeurant, la séance des questions au Premier ministre, comme je vous le disais, c'est un truc qui avait été inventé par Gabriel Attal, qui avait proposé que la séance du mercredi soit une séance de questions au Premier ministre, Ce qui était plutôt bien vu par les députés, parce que les députés, vous le savez, ils sont libres de poser des questions sur tous les sujets qu'ils veulent, et le gouvernement est libre d'envoyer n'importe quel ministre répondre à la question qui est posée. Souvent, il y a des députés, notamment des députés d'opposition, qui posent une question au Premier ministre sur la politique du pays, machin, et c'est pas le Premier ministre qui répond, c'est le ministre chargé du sujet qui se lève et qui répond. C'est normal hein, que ça ait lieu comme ça. Faut pas se dire que c'est juste parce que c'est des macronistes qui sont méchants. Ce sera pareil le jour où la gauche sera au pouvoir. Non, le Premier ministre ne répond pas personnellement à toutes les questions qui sont posées au cours de la séance, sinon ce serait un enfer pour lui. Mais il y avait quand même beaucoup de questions qui étaient posées au Premier ministre, et du coup, Gabriel Attal, il a pris les députés au mot, il leur a dit bah, écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse carrément une séance par semaine où il n'y a que moi qui réponds à vos questions. Voilà. Vous me posez vos questions, et moi j'y réponds. Je suis Premier ministre, je suis chef du gouvernement, vous avez des questions à me poser, je réponds. Et vous pouvez me poser une question sur n'importe quel axe du gouvernement, je répondrai. Donc voilà, Gabriel Attal avait fait ça pendant quelques mois. Et là, François Bayrou reprend la formule. Et les députés ne peuvent pas gueuler. Les députés ne peuvent pas gueuler parce qu'ils ont le chef du gouvernement qui répond à leurs questions. C'est quand même l'idéal, y compris les députés d'opposition. On ne peut pas dire que le Premier ministre se défile aux questions des députés. Ben non, il y répond à toutes. Est-ce que les questions sont données à l'avance et quelle place à l'improvisation ? Non, les questions qui sont posées au gouvernement ne sont pas automatiquement données à l'avance au gouvernement. Les députés qui posent des questions, les groupes de députés, ont le choix, s'ils le souhaitent, de dire à l'avance au gouvernement quelle est la question qu'il va leur poser. Soit ils peuvent lui donner toute la question, soit ils ont le droit, soit ils peuvent juste lui dire le sujet de la question. Je vais vous interroger sur, je sais pas moi, Mayotte. Bon. Mais il y a aussi des députés d'opposition qui refusent de donner le sujet de leur question à l'avance. Ils disent non, nous on n'est pas là pour filer un coup de main au gouvernement. On lui posera une question et il la découvrira en direct. Voilà, c'est son problème. On est en direct, on est sur Twitch, let's go. Voilà, ça n'empêche pas le Premier ministre de préparer des fiches de révision, hein, parce qu'on se doute quand même des sujets qui vont être abordés. Au cours de la séance, puisque c'est une séance de questions d'actualité, on connaît l'actualité, donc on se doute un peu des questions qui vont être posées, ce qui permet donc au gouvernement en direct de répondre à la question avec une petite fiche qu'ils ont préparée au cas où la question tombait. Voilà. Pas de ministre démissionnaire présent à la séance. Écoute, c'est une question que je me pose. Est-ce que les ministres démissionnaires vont être physiquement présents au banc, comme on dit, le banc du gouvernement, hein, c'est les deux premiers bancs en bas de l'hémicycle, qui sont les bancs du gouvernement, est-ce qu'ils vont être physiquement présents au banc et ne répondre à aucune question, ou est-ce que François Bayrou va être seul ? Ça me paraît très logique que Bayrou soit seul, vu qu'ils sont démissionnaires, et que donc ils n'ont rien à foutre au banc, puisqu'ils ne sont pas responsables devant l'Assemblée, tu vois ce que je veux dire ? Je sais pas, j'en sais rien. Ils ont peut-être un conseil municipal à présider. Oui, oui, c'est vrai, t'as raison. Ils ont peut-être des conseils municipaux, les ministres. Eh, vous croyez que les ministres, ils bossent pour vous 24-24 ? Eh non, mais c'est bon, hein ? Les mecs, ils ont des conseils municipaux et tout, hein ? Croyez quoi ? Qui c'est qui va s'occuper de l'illumination du sapin de Noël ? Non, mais oh, ça va maintenant ? Fou, ça. J'ai trop hâte d'avoir l'avis du maire de Pau. Franchement, moi, je serais un député d'opposition, je commencerai ma question par monsieur le maire de Pau. Monsieur le maire de Pau, merci d'être avec nous aujourd'hui à Paris, ça fait plaisir. Ça va, vous avez fait mon vol ? Bon, il y aura sûrement beaucoup de questions sur Mayotte. Hein. François Bayrou est sous le feu des critiques hein, depuis hier, depuis qu'il a décidé de présider un conseil municipal dans sa ville de Pau plutôt que de participer physiquement à la réunion de crise présidée par le président de la République. Bon, apparemment, il y était en visio. C'est cheap, hein. C'est cheap comme Premier ministre. T'imagines la solennité du moment avec les préfets, les militaires, les ministres, etc. Ah oui, attendez, on a aussi le Premier ministre qui est là. François, tu nous entends ? François, t'as pas allumé ton micro ? Allume ton micro. Ouais, clique en bas. Ouais, ouais. Voilà, on t'entend. Ah oui, on t'entend bien. Voilà. François, pourquoi t'es en slip ? T'es mauvaise langue. Je suis mauvaise langue. Je vous l'accorde. Je vous l'accorde. Je fais preuve de cynisme et d'ironie face à une situation que je trouve rocambolesque. Je manque de neutralité. En plus, je ne manque pas de neutralité. Je vous explique que c'est Gabriel Attal qui avait inauguré la séance des questions au Premier ministre, que Bayrou ne fait que reprendre la formule, qu'il est un peu obligé de le faire à cause de la Constitution. C'est bon. C'est bon. Comment sont réparties les questions vu qu'il n'y a pas vraiment d'opposition et de majorité? Alors si, il y a une opposition et une majorité, puisque les groupes de députés se sont déclarés comme tels au début de la session ordinaire, sous Michel Barnier. Faute de gouvernement, on va rester sur les mêmes étiages. On verra après le discours de politique générale de François Bayrou, qui aura lieu le 14 janvier sur ma chaîne, on verra si des groupes changent. Peut-être que les Républicains vont quitter la majorité pour se mettre dans l'opposition. Et peut-être que les socialistes vont quitter l'opposition pour se mettre dans la majorité. La probabilité est de au moins 0,1%. Peut-être que Bayrou sera le seul membre de la majorité d'ici au 14 janvier. Oui, peut-être. Il va falloir qu'il nous présente son équipe gouvernementale avant, quand même. Hein. T'es quand même la meilleure chaîne quand c'est le bordel. Mais c'est pas que quand c'est le bordel. Hein. Vous savez, quand on se fait chier, je suis aussi la meilleure chaîne. Hein. La meilleure chaîne pour se faire chier. Mais abonnez-vous. Hein. La séance de questions dure combien de temps? Écoute, si on reste sur l'organisation habituelle, c'est 1h30. Sauf s'ils font une séance où il y a une seule question par groupe. Auquel cas, c'est 45 minutes, 50 minutes. Perceval, t'as l'info, toi? On est sur une séance du mardi ou du mercredi avancé le mardi? Dix questions. Ouais, donc c'est une par groupe. Je croyais qu'il y avait 11 groupes. J'ai mes fûts ou quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oui, 11 questions. 11, on est d'accord. Ok. Donc aujourd'hui, mesdames et messieurs, il n'y aura qu'une seule question par groupe. Voilà, une seule question par groupe. D'habitude, c'est le mercredi. Là, c'est avancé au mardi. Cherchez pas, c'est le bordel. C'est juste pour le plaisir de faire chier l'organisation des streams de Jean Massier que le gouvernement a décidé d'intervertir les séances. Yael Braun-Pivet qui désavoue le Premier ministre, quoi en penser ? Yael Braun-Pivet n'a pas désavoué le Premier ministre, elle a fait part de sa critique du choix du Premier ministre d'aller présider un conseil municipal en pleine crise à Mayotte. Entre nous, elle n'est pas la seule à l'avoir dit. Donc il n'y a pas grand monde pour défendre François Bayrou sur ce coup-là. Hein. Si, peut-être au conseil municipal de Pau, ils étaient contents de l'avoir, mais à part... Quand le gouvernement sera-t-il nommé, à ton avis? Bah, c'est une bonne question. La vraie question, c'est aura-t-on un gouvernement à Noël? Le 25 décembre au matin, les petits-enfants, devant le sapin, ils vont ouvrir leur paquet et ils vont découvrir « Ah, un gouvernement !» Cadeau, ça fait plaisir. Tu l'attendais, hein? Oui, tu l'attendais. Bah oui, ils parlaient que de ça dans les cours de récré, les gosses. Donc là, ils auront la réponse. Blague à part, j'en sais foutre rien. Le discours de politique générale aura lieu le 14 janvier, dans un peu moins d'un mois. Il va quand même falloir nommer un gouvernement assez rapidement. Donc voilà, quoi. « Gardez le ticket pour le remboursement. Vous pouvez l'échanger à la FNAC, hein, le gouvernement. Si vous l'aimez pas, vous pouvez l'échanger. T'as une carte cadeau. Le discours de politique générale un mois après la nomination, c'est archi tard. Oui, c'est tard par rapport à l'habitude, mais l'habitude, c'est qu'il y a une majorité absolue, donc il y a un gouvernement assez rapide. Là, compte tenu des discussions qui ont lieu, ça prend plus de temps. Et en plus, il y a les vacances, hein, entre-temps. Parce qu'on rigole, mais il y a quand même la pause du calendrier de la session. Hop. Ouais, le 23 décembre jusqu'au 12 janvier. Donc en vrai, là, il reste que 5 jours. Enfin, sauf loi spéciale et autres trucs rock'n'roll. Donc le discours de politique générale est prévu pour la reprise de la session. Théoriquement, Bayrou pourrait se faire censurer avant son discours de politique générale. Non. Non, parce que pour ça, il faudrait qu'il dépose la composition de son gouvernement aujourd'hui. Ou au plus tard demain, qu'ensuite des députés déposent une motion de censure qui sera examinée dans les 48 heures, donc le 21 décembre, donc juste avant la pause. Je viens d'arriver, je me suis pas trop renseigné sur ce qu'a fait Bayrou ces derniers jours. Est-ce que c'est des trucs intéressants? Comment te dire? Je suis au regret de t'annoncer. Où j'ai le plaisir de t'annoncer que le Premier ministre François Bayrou a présidé le conseil municipal de la ville de Pau. Voilà. C'est grosso merdo son actu des derniers jours. Il a participé à la cellule de crise sur Mayotte, en visio, parce qu'il n'était pas là, il était à Pau. Il a libéré Paul Watson. Il a libéré Paul Watson quand même. On rigole, mais c'est François Bayrou hein, qui allait ouvrir la cellule de la prison et tout. Il a remis en cause le non-cumul des mandats. Oui, il a remis en cause le non-cumul des mandats. Oui, absolument. Depuis son siège de maire de la ville de Pau, le Premier ministre a déclaré qu'il souhaitait réinstaurer le cumul des mandats en France. Il y a beaucoup de choses à dire sur François Bayrou. Vous pouvez pas lui retirer son sens de l'humour. Il est bon, quand même. Non, mais c'est voilà. Et il a cité Gaston Defferre en exemple. Oui, il a cité Gaston Defferre, Jacques Chirac. Ah, le bon vieux temps. Non, mais en plus, hein, pardon, mais je reviens. Je vais arrêter. Hein, promis, je vais arrêter de râler sur le cumul des mandats. Dans les exemples qu'il a donnés, vraiment, il parle que de l'ancien monde. Hein, mais vraiment du monde avant-avant, quoi. Il te parle de Gaston Defferre. Il te parle de Jacques Chirac dans les années 80. Tu sens que le modèle de François Bayrou, c'est vraiment le monde d'avant, quoi. Le millénaire précédent, oui, c'était le millénaire précédent. Et donc, il te parle du cumul des mandats en te citant Gaston Defferre. En 2025, après Jésus-Christ. Bon. Entre ça et Henri IV. Oui, non mais attendez, on le sait que la ville de Pau et le Béarn ont une histoire importante avec Henri IV. On le savait, ça. C'est pas choquant qu'il y ait un portrait d'Henri IV dans la salle du conseil municipal de la ville de Pau. Moi, ça me choque pas du tout. J'espère que dans la salle du conseil municipal de la ville de Versailles, il y a un giga portrait de Louis XIV. J'espère. De même que tu as Napoléon dans plein de mairies, etc. C'est des bâtiments historiques, hein. C'est des lieux d'histoire aussi. C'est pas que, ils ont pas été construits avec la Révolution, hein, les bâtiments. Donc voilà. Vichy à Pétain. T'es ironique? Non, 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 je suis pas ironique, je suis pas ironique. J'ai un bâtiment chargé d'histoire. Ça me choque pas qu'on garde l'histoire dans les bâtiments. C'est pas parce qu'on est passé en République qu'il faut virer les portraits, tu vois. Je m'en fous. Henri IV, c'est bien le roi qui s'est fait assassiner à Châtelet. Oui, exactement. À Châtelet, il est sorti du métro, il est sorti du RER, il s'est fait planter Henri IV. Non, blague à part, il s'est fait assassiner rue de la Grande Ferronnerie, qui est effectivement à côté de la place du Châtelet, à Paris. Il y a à peu près à mi-chemin entre Châtelet et les Halles. En face du Banana Café, exactement, pour les Parisiens qui connaissent. Pour les Parisiens qui connaissent, c'est là où aujourd'hui il y a le Banana Café, dans lequel il a pu m'arriver de me retourner le crâne avec des shots de tequila. Mais c'est d'abord le lieu de l'assassinat d'Henri IV. Attention, commencez par. Voilà. Mon Dieu, les souvenirs. Ah là là. Oula. Pour ceux qui ont été étudiants à Paris, les bars de Châtelet. Bah, en même temps, ils étaient pas chers. Hein, que, si tu veux, on faisait ce qu'on avait avec ce qu'on avait. On n'avait pas beaucoup de fric. On voulait se murger la gueule. Bon, bah, on allait dans les bars un peu glauques qui faisaient des mètres de shot pour pas cher. On fait avec ce qu'on a, hein. Quand on a 19 ans, ils disent, hein, bon. Les non-souvenirs plutôt, oui, plutôt. Bref. Bref, il est 15h, il est 15h. Quand est-ce que ça commence, la séance des questions d'actualité à François Bayrou? C'est dans l'agenda de l'Assemblée, hein. Voilà, c'est en train de commencer doucement. Nous voyons la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, qui a critiqué François Bayrou hier pour son déplacement à Pau, qui va présider la séance des questions au gouvernement. Il n'y a que François Bayrou au banc des ministres. Nous avons donc la réponse. Il n'y a pas les autres ministres démissionnaires, il n'y a que François Bayrou tout seul sur le banc des ministres. Il est le gouvernement.
Mes chers collègues, je vous demande de bien vouloir prendre place.
Oui.
L'ordre du jour appelle les questions au Premier ministre. Il a été convenu en séance, en conférence des présidents. Chut, s'il vous plaît. Il a été convenu en conférence des présidents qu'il y aurait une question au Premier ministre par groupe politique dans l'attente de la composition du gouvernement. Donc, Monsieur le Premier ministre, merci de vous prêter au jeu de cette séance de questions au gouvernement. Et la première question va être posée à Madame Laure Lavalette, par Madame Laure Lavalette.
Laure Lavalette du Rassemblement national va poser la première question à François Bayrou. Incroyable cette séance.
Merci Madame la Présidente. Le groupe RN et sa présidente Marine Le Pen s'associent au deuil national annoncé par le président Macron suite au drame épouvantable que vit le département de Mayotte. Compatriotes mahorais, français au milieu des malheurs du monde, recevez notre sollicitude et toute notre affection. Monsieur le Premier ministre, le 7 juillet dernier, par un jeu de désistement indigne d'une démocratie mature, le président de la République a empêché une alternance pourtant largement réclamée par les Français. Alors qu'il prétendait redonner au pays le choix de son avenir, Emmanuel Macron l'a privé d'une majorité claire au prix de l'instabilité et du chaos que nous subissons aujourd'hui. Ils resteront, lui et son Premier ministre d'alors, seuls responsables devant l'histoire. Aussi, nous espérons sincèrement, parce que c'est l'intérêt fondamental d'un peuple qui ne vous a pas choisi, que votre action soit malgré tout salutaire face aux urgences qui s'amoncellent. L'urgence pour nos agriculteurs, abandonnés par un gouvernement Attal qui n'a pas fait la moitié de ce qu'il avait promis. Nous vous proposons, Monsieur le Premier ministre, d'organiser l'examen et le vote d'une loi d'urgence agricole d'ici au 31 décembre et de stopper la folie du traité avec le Mercosur en gelant notre contribution financière à l'Union européenne. L'urgence démocratique. Et nous savons que vous partagez notre engagement pour un mode de scrutin proportionnel alliant juste représentativité et stabilité institutionnelle. L'urgence toujours prégnante du pouvoir d'achat et d'une fiscalité plus juste. L'urgence de l'hôpital et de l'accès aux soins partout sur le territoire. L'urgence enfin sécuritaire et migratoire qui s'aggrave de jour en jour malgré les postures et les grands mots. Alors face à cet Himalaya de défis, pouvez-vous décliner devant la représentation nationale les priorités qui sont...
Laure Lavalette, c'est la petite fille d'un militant des Croix de Feu qui était des fascistes des années 20 et 30. Fille d'un membre d'Ordre Nouveau, mouvement fasciste qui a participé à la fondation du Rassemblement National, du Front National. Elle a suivi Bruno Maigret en 1999 lorsqu'il a quitté Jean-Marie Le Pen. Laure Lavalette qui pose une question assez générale sur tous les sujets d'actualité qui sont sur le bureau du Premier ministre. Je crains qu'elle ne soit déçue par la réponse de François Bayrou. Elle est députée du Var, elle a 48 ans. Ah ! François Bayrou.
Madame la Présidente, Madame la députée, d'abord un mot pour vous dire l'émotion qui est la mienne. Il y a longtemps que je n'ai pas pris la parole dans cette Assemblée.
2017, il avait démissionné parce qu'il était devant la justice.
Et à laquelle je veux dire quelque chose de simple, c'est sentiment et expression de respect de la part du gouvernement à l'égard de chacune et chacun de ceux qui siègent sur ces bancs, chacun et chacune de ceux qui siègent sur ces bancs, d'un bout à l'autre de l'échiquier politique, et pour chacun des groupes. Parce que je suis partisan acharné du pluralisme en politique. Je pense que ce n'est pas parce que nous avons des opinions différentes, parfois des opinions opposées, que nous ne pouvons pas débattre et dialoguer ensemble. Madame la députée, vous avez fait la liste des très nombreux défis qui existent devant nous. Vous avez utilisé une expression que j'avais moi-même employée, c'est un Himalaya. Ça paraît, comme vous le savez tous, insurmontable. Et pourtant, nous devons le surmonter. Et spécialement quand nous sommes rappelés par la catastrophe de Mayotte, au respect de ce que nous avons de plus sacré, et de plus sacré, notre concitoyenneté, notre compatriotisme à l'égard de tous ceux qui sont atteints par les accidents de la vie. J'imagine qu'on aura tout à l'heure l'occasion de reparler de ce drame de Mayotte. Je sais que vous avez fait respecter, Madame la Présidente, hier une minute de silence. Et donc je m'associe par la pensée rétrospectivement à cette minute de silence. Vous avez décrit, Madame la députée, les très nombreux obstacles qui sont devant nous. Et vous me demandez de les décliner. Je ne suis pas sûr que je déclinerai les réponses. Mais je veux vous dire une chose simple. Je ne dissimulerai rien. Je ne laisserai rien sans traitement et sans réponse. Tous les problèmes que vous avez indiqués, qui tiennent à la dépense publique, qui tiennent aux fractures de la société française, j'essaierai de les résoudre. J'essaierai, pour les autres, les fractures, de les résorber. Et j'essaierai de le faire en tenant compte de chacun des groupes, en tout cas, qui siègent sur ces bancs.
François Bayrou, il a 73 ans, il est professeur agrégé de lettres classiques, ancien conseiller de Pierre Puymelin, président du Parlement européen. François Bayrou, si vous ne le savez pas, il est maire de la ville de Pau.
Et siège sur ces bancs, a droit au respect et à un traitement équitable. C'est ma vision, elle n'est pas d'aujourd'hui. Je l'ai défendue longtemps sur ces bancs, je l'ai défendue à l'extérieur. Et pour moi, c'est très important. Et quand je dis que je ne laisserai rien de côté. Bien entendu, les problèmes que vous avez évoqués, les problèmes de finances publiques, par exemple, nous les traiterons. Je crois avoir montré dans ma vie politique que ces problèmes étaient pour moi essentiels. Madame, il n'y avait pas de questions sur Mayotte. mais j'imagine qu'il va y en avoir d'autres. Et je vous répondrai avec la précision.
François Bayrou qui commence donc cette séance de questions au gouvernement par une réponse un peu générale et de présentation en tant que Premier ministre sur sa méthode et sa volonté. Il répondra ensuite plus précisément à toutes les questions qui vont être posées.
L'impératif qui est le nôtre, et je vous promets d'essayer, pas seulement aujourd'hui, de le résoudre avec l'ensemble de la représentation nationale.
Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. La parole est à Monsieur Gérald Darmanin pour le groupe Ensemble pour la République.
Gérald Darmanin, l'ancien ministre de l'Intérieur, est peut-être nouveau ministre dans quelques jours.
Merci Madame la Présidente. Monsieur le Premier ministre, le magnifique archipel qu'est Mayotte pleure. Pleure ses morts, pleure la détresse de ses habitants, pleure la pauvreté. Et pleure sans doute la désolation. Et nous, ici, qui aimons Mayotte, magnifique bout de France du bout du monde, où les Français sont de volonté, nous nous interrogeons. Nous interrogeons sur la capacité qu'a notre pays à aider une population pleine de souffrances et de difficultés. Nous saluons votre engagement, Monsieur le Premier ministre, dès votre nomination et celle du Président de la République, pour au plus vite répondre aux urgences. Et ma première question est celle des urgences. Comment éviter les pillages? Comment lutter contre les maladies qui vont naître après ces bangas détruits, ces hôpitaux qui ont du mal à fonctionner, ces personnels de soins et de pompiers qui n'arrivent pas à atteindre les blessés? Comment mettre l'eau, l'électricité et la sécurité pour chacun de ses habitants? À plus long terme, Monsieur le Premier ministre, comment reconstruire Mayotte, son aéroport, ses infrastructures, ses écoles, son fonctionnement qui fait que la République est partout chez elle? Et puis, Monsieur le Premier ministre, il y a très longtemps, les Mahorais ont choisi d'être Français. Il y a plus de 40 ans, les Mahorais ont redit par 2 référendums leur volonté d'être Français.
Gérald Darmanin, député du Nord, il a 41 ans, c'est l'ancien directeur de cabinet de David Douillet quand il était ministre des Sports. Gérald Darmanin, qui a surtout été connu pour être ancien ministre de l'Intérieur dans les gouvernements précédents, qui pose une question sur l'île de Mayotte, ravagée par un typhon. Et que va faire l'État dans les jours et les semaines qui viennent pour venir en aide à l'île de Mayotte?
Vous avez raison, monsieur le ministre. Le drame de Mayotte, il a frappé une population qui, plus que d'autres, s'est engagée pour la France. J'ai tout à fait en mémoire les visages de ceux qui se sont battus pour Mayotte française et pour Mayotte...
Oui, il est d'usage d'utiliser le titre ministre comme un titre honorifique pour les personnes qui l'ont été. Lorsqu'on s'adresse à eux, on peut... au choix, dire monsieur le député ou monsieur le ministre, lorsque c'est un ancien ministre. Pareil pour les présidents. L'ancien président de la République, François Hollande, on peut l'appeler monsieur le président quand on s'adresse à lui.
C'était des hommes qui considéraient que la vocation de Mayotte, c'était d'être ce visage de la France là-bas. Et ils ont fait confiance. Et ce que nous avons approuvé, c'est qu'ils ont eu raison de faire confiance devant une des tragédies, une des pires tragédies que l'on puisse rencontrer. Alors, vous m'interrogez d'abord sur le bilan. Pour l'instant, le bilan est incertain. J'ai parlé tous les jours et à plusieurs reprises avec le préfet de Mayotte, M. Bieuville, à qui je veux rendre hommage, et avec les représentants de l'État, qu'ils soient sur la basée ou à partir de la Réunion, ou à Mayotte directement. Le bilan n'est pas encore établi. Le bilan, c'est aujourd'hui constater plus d'une vingtaine de morts et puis quelque chose comme 200 blessés graves et 1500 blessés qui sont en urgence relative. Ce bilan peut s'alourdir, nous le savons tous. Et nous sommes tous anxieux devant le destin de ceux qui ont été pris dans la tourmente alors qu'ils n'étaient pas protégés contre la tourmente. Au-delà de ce bilan d'urgence, comme vous l'avez dit, il y a la question de la remise en route de la vie à Mayotte. Vous avez parlé de l'hôpital. L'hôpital, c'est quelques 50% qui a retrouvé son activité. Vous avez posé la question de l'eau, essentielle. Et des ministres de l'Outre-mer précédents ont eu à traiter la question de l'eau, Monsieur Vigier. Deux des six usines ont été remises en route. La question des usines n'étant pas celle des mécanismes de traitement de l'eau, la question des usines essentielle, c'est l'électricité, l'alimentation électrique de ces usines, qui permet à ces usines de traitement d'être remises en route. Et donc la question de l'électricité, il y a aujourd'hui à peu près 50% du réseau électrique qui a été remis en route. Le réseau à haute tension, la partie haute tension du réseau n'a pas été détruite. Elle est en état et elle fonctionne. C'est la basse tension qui, selon...
Ah, mais si on rentre dans le détail des tensions électriques, ça va être compliqué.
A été plus endommagée. Les services de l'État considèrent que d'ici la fin de la semaine, on pourrait atteindre 75% de remise en route du réseau électrique.
Ça, c'est une annonce.
Le routier n'a pas été gravement atteint. C'est sur la surface des arbres qui sont tombés. Et on considère aujourd'hui, peut-être ce jugement est-il un peu optimiste, que à peu près 80% du réseau routier est de nouveau accessible. Et puis vous posez la question à plus long terme de la reconstruction. Pour moi, c'est une question essentielle parce que l'espoir des populations est évidemment dans la reconstruction. Le gouvernement va lancer un appel à projet sur conceptions d'habitations très rapides, préfabriquées, faciles à monter, pratiques à mettre en place et pas trop chères. Je suis persuadé qu'un grand nombre d'acteurs français, d'entreprises françaises, peut-être même d'écoles d'architecture, vont se passionner pour ces projets qu'il faudra très rapidement analyser et choisir. Et puis, il y a la question des fonds pour aider tout cela. Il y a des fonds européens qui peuvent être activés, le fonds Restore en particulier. Et puis, il y aura la solidarité nationale. Et nous sommes là pour ça. Nous sommes là, l'État, les pouvoirs publics, pour manifester...
Ouais, je vais augmenter la taille du texte.
10% des foyers de Mayotte qui soient assurés. Vous voyez la dimension de ce que nous devons faire. L'idée, c'est de mettre en place, comme nous l'avions fait pour Irma, de mettre en place une équipe spécialement dédiée sous une autorité choisie par l'État. Et dans les prochaines heures, cette décision devrait être prise. Et c'est ainsi que nous ferons face à ce drame et que les Mahorais font déjà face à ce drame parce qu'ils sont déjà au travail et en train de reconstruire leur île avec toutes les difficultés que nous connaissons.
Je rappelle que le Premier ministre n'a pas de limite de temps de parole à l'Assemblée nationale. C'est le seul. Les autres sont limités à 2 minutes.
Merci.
Et les députés sont limités à 2 minutes pour poser leurs questions. C'était donc la première réponse de François Bayrou, Premier ministre et maire de Pau. Je vais arrêter. Sur la question de Mayotte. Merci pour le raid. On continue avec Mathilde Panot, la présidente du groupe de la France Insoumise.
Le Tchido laisse Mayotte dévastée. La France pleure ses bien trop nombreuses vies arrachées au monde. Nos pensées se tournent vers les familles des disparus et vers ceux qui attendent des nouvelles de leurs proches. Nous saluons le courage des secouristes. La situation des survivants est dramatique. Des bidonvilles transformés en cimetières. Plus de 100 000 personnes sans toit ni eau. 3 jours dans le noir, un système de santé réduit à néant. La faim et les épidémies menacent. Monsieur le Premier ministre, cette catastrophe n'est pas naturelle, elle est politique. Politique dans son déroulement d'abord. Depuis les nombreuses personnes qui ne se sont pas rendues dans les abris de la préfecture par peur d'un piège pour les expulser, jusqu'au sous-investissement chronique. Depuis des années, dans le département le plus pauvre de France, une personne sur trois n'avait déjà pas accès à l'eau potable, 40% des logements étaient des habitats précaires. Politique dans ses causes ensuite. Le changement climatique ne vient pas de nulle part. Nous ne sommes pas devant le cyclone du siècle, nous sommes entrés dans le siècle des cyclones, des ouragans et de la montée des eaux. Des questions viennent déjà. Pourquoi la grande loi de prévention des catastrophes naturelles en Outre-mer, promise en 2018 par Emmanuel Macron, n'a-t-elle jamais vu le jour? Pourquoi la délégation interministérielle aux risques majeurs Outre-mer, créée en 2019, a-t-elle été dissoute? Pourquoi la commission d'enquête que nous avions obtenue par la voix de Jean-Philippe Niller sur les risques naturels majeurs en Outre-mer a-t-elle été sabotée? À cet instant et avant tout, la République doit porter secours par tous les moyens à Mayotte et à ses habitants. Dans ce contexte, monsieur le Premier ministre, vous n'auriez pas dû vous rendre à Pau pour conserver un mandat, mais à la réunion de crise de l'Élysée pour assumer votre nouveau rôle.
Il y était présent en visio, mais effectivement, Mathilde Panot qui tape fort sur François Bayrou, qui a décidé de présider le conseil municipal de Pau hier soir. Mathilde Panot, elle a 35 ans, c'est l'ancienne cadre de l'association Voisins Malins, qui est une association d'entraide dans les quartiers populaires. Elle est présidente du groupe de la France Insoumise et elle pose à nouveau une question sur le sujet de Mayotte au Premier ministre François Bayrou.
Je vous remercie. La parole est à monsieur le Premier ministre.
Madame Panot, Madame la Présidente, d'abord, vos mots sont justes sur la situation des Mahorais. Il est vrai que c'est le département le plus pauvre de France, et non sans raison, parce que son développement, le développement de ce département qui est le dernier à avoir rejoint la France, le développement de ce département a commencé plus tard que les autres. Et les conditions socio-économiques, y compris les conditions socio-économiques de cette région du monde, ne sont pas favorables. Donc je me joins au regret, d'une certaine manière, que vous avez exprimé, qu'il n'y ait pas eu plus tôt, beaucoup plus tôt, de prise en compte dans les 30 ans ou 40 ans précédents et d'adoption d'un modèle de développement. Après, vous avez eu une petite phrase polémique à laquelle je voudrais répondre. C'est extrêmement simple. J'étais à la réunion de crise avec le président de la République.
En visio.
J'y ai participé de la première à la dernière minute. J'y ai participé par visio, comme le ministre de l'Intérieur y a participé par visio depuis l'île de la Réunion. Parce que je suis obligé de vous dire que Pau, c'est en France. Si j'étais allé au conseil municipal, il y avait hier soir à peu près dans toutes les communes de France des conseils municipaux pour
le budget.
Voter le budget. Si j'avais été dans une mairie...
Ah non, putain, c'est chiant, ça rame au moment où c'est intéressant.
Du 7e arrondissement, où la mairie de Neuilly...
C'est Rachida Dati, la maire du 7e.
Vous considérez, madame, que c'était très bien. Permettez-moi de vous dire que il y a une rupture que peut-être vous ne sentez pas entre la vie de la province et le cercle des pouvoirs à Paris. Madame, ça n'est pas la peine de crier.
Ça va pas. Pour
avoir des opinions différentes.
Ça énerve la fille.
Excusez-moi, je suis de ceux.
Entre Bayrou, le provincial, et Mathilde Panot, la parisienne.
On n'a pas le droit de séparer la province et le cercle des pouvoirs à Paris.
Il fait tout pour la faire crier en même temps, là.
Vous pouvez vous égosiller. À Mayotte, il y avait le ministre de l'Intérieur. C'est le président de la République qui dirigeait la réunion de crise et j'y participais. Et donc, j'ai présidé le conseil municipal de ma ville de 19h à 23h. Je considère que, ce faisant, j'étais aussi à ma place de citoyen. Et j'ai l'intention de défendre cette idée que la citoyenneté ne se divise pas entre être à Paris et occuper ses responsabilités de citoyen sur le terrain. Ça va être un très grand sujet pour notre avenir. Merci beaucoup.
Je vous remercie. Et à monsieur le président Boris Vanier.
Le retour du cumul des mandats, mesdames et messieurs, c'est pour bientôt. Hein. C'est prévu, c'est programmé, c'est annoncé. Madame Boris Vallot, président du groupe socialiste.
Monsieur le ministre, nos premières pensées vont à nos compatriotes de Mayotte, aux victimes et à leurs familles, ainsi qu'aux services de secours, et nous leur disons notre solidarité. Je le dis sans esprit de polémique, mais avec gravité, votre place. L'urgence n'était pas au retour du cumul des mandats, mais aux inquiétudes des Françaises et des Français, et d'abord des Mahorais. Votre devoir, votre seul devoir, est d'y répondre sans attendre, et le temps presse. C'est notre seul devoir d'opposition et d'y veiller, de nous battre pour répondre aux attentes des Français dans la fidélité à ce que nous avons défendu devant eux et d'être utile à leur vie. Notre devoir, dans l'intérêt du pays, est de chercher un chemin de stabilité et de progrès, d'être des parlementaires adultes à la recherche de majorité texte par texte, fidèle à l'élan de Front républicain. Je vous adresse à cet instant une forme d'avertissement républicain solennel. Nous voulons un bon budget au pays, et vous? Nous voulons parler des retraites, et vous? Nous voulons avancer sur la question de la vie chère outre-mer, de l'hôpital public, de l'agriculture, de l'école, du narcotrafic, des salaires, et vous? Nous avions revendiqué un Premier ministre de gauche ouvert au compromis. Vous n'êtes pas de gauche. Mais serez-vous ouvert au compromis? Disposé à autre chose qu'à la défense, quoi qu'il en coûte, du bilan d'Emmanuel Macron. Monsieur le Premier ministre, nous avions revendiqué le respect strict du Front républicain. Serez-vous bien un Premier ministre affranchi du Rassemblement national et de ses idées nauséabondes? Monsieur le Premier ministre, comment entendez-vous obtenir la stabilité dans la justice? Avancer dans le sens des Français, sortir de la crise et échapper peut-être à une nouvelle censure. Quelle est votre méthode? Quel est votre calendrier? Quand allons-nous enfin nous mettre au travail, vous mettre au travail? Nous y sommes prêts, dès aujourd'hui. Et vous?
Boris Vallot, 49 ans, député des Landes, ancien secrétaire général adjoint de l'Élysée sous la présidence de François Hollande, président du groupe socialiste, qui pose une question très générale sur François Bayrou, sa méthode, son projet, ses urgences, ses priorités, tout ça, tout ça.
Monsieur le président Vallot, d'abord je me joins aux mots qui ont été lus à destination des Mahorais et de ceux qui aujourd'hui essaient et réussissent à leur porter secours. Et cette tonalité qui est unanime dans nos bancs est à mon sens très importante pour ceux qui nous écoutent. Après, vous dites où êtes-vous dans la crise que le pays traverse? Et je l'ai dit, je le répète, aucun des sujets que vous avez traités ne sera mis de côté, aucun ne sera exclu de l'action du gouvernement. Et j'espère, je souhaite, comme vous l'avez fait verbalement, que nous participerons tous à la mise au point des réponses. Ma méthode, c'est celle-là. Et je répète que tous les... C'est assez clair. Est-ce que je fais aujourd'hui le discours de politique générale? Non.
Ce sera le 14 janvier.
De proposer au président de la République de former le gouvernement, ce que j'espère nous ferons dans les jours qui viennent. Peut-être je sais, pas seulement j'espère. Nous ferons dans les jours qui viennent. Et à ce moment-là, il y aura naturellement le débat à l'Assemblée, le discours de politique générale. Et donc, soyez pas véhémente, madame, dans votre... nous allons faire ça. Nous allons faire ça Et il y aura réponse à toutes les questions que vous avez posées.
Je rappelle qu'à la fin de la semaine, l'Assemblée nationale est en vacances pour 15 jours. C'est aussi pour ça qu'on se retrouve le 14 janvier pour le discours de politique générale.
Je ne laisserai pas la situation budgétaire sans réponse. Mais permettez-moi de vous dire que s'il n'y a pas eu de réponse, c'est parce qu'il y a eu censure. Et ce n'est pas nous qui avons censuré. Vous avez raison de dire en effet que la censure n'a été acquise que parce qu'il y a eu des votes qui se sont additionnés sur les bancs des uns et sur les bancs des autres. Et donc la situation dans laquelle nous sommes, la situation.
C'est le fameux si vous aviez pas censuré, on n'en serait pas là.
La conséquence.
Ouais, mais si vous aviez pas fait de la merde, on n'aurait pas censuré. Donc c'est vraiment le Spider-Man qui se regarde quoi.
Conduire, mais c'est la conséquence. Et nous allons réparer cette situation. Et j'espère que nous le ferons en trouvant des chemins d'entente entre le gouvernement et les différentes sensibilités qui formeront le gouvernement et les élus responsables sur vos bancs. Cette certitude, je la garantis devant vous. Est-ce qu'on sera d'accord sur tout ? Non, sûrement pas. Je ne vois pas sur quelle décision l'ensemble des bancs de l'Assemblée nationale pourrait être du même avis. Mais je suis certain, Monsieur le Président Vallaud, peut-être est-ce de l'optimisme irréaliste, je suis certain que le chemin existe pour que les uns fassent un pas et les autres un autre. On ait au moins la certitude qu'on s'approche.
Et il sait à qui il s'adresse, François Bayrou, il s'adresse aux socialistes, il espère que les socialistes ne vont pas le censurer.
Voilà.
Vu la tronche de Boris Vallaud...
N'entrez pas en colère les uns sur les autres. De toute façon, il faut que vous sachiez que les Français ne vous entendent pas pour des raisons qui tiennent au micro.
Si, ils entendent. T'inquiète, je m'en occupe, ça.
Président Vallaud.
Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. La parole est à présent à Monsieur Vincent Jeanbrun pour le groupe Droite Républicaine.
Vincent Jeanbrun pour Les Républicains.
Merci Madame la Présidente. Je veux d'abord dire solennellement au nom du groupe et du Président Laurent Wauquiez toute notre solidarité avec Mayotte et ses habitants. Nous sommes de tout cœur avec nos compatriotes. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Je me rappelle de ces mots. Nous ne pouvons pas continuer...
Un point pour l'humour. Un point pour l'humour.
Je me rappelle de ces mots. Nous ne pouvons pas continuer à creuser le déficit de la France et à augmenter la dette de notre pays comme nous le faisons.
Pour ceux qui n'ont pas compris, il a dit « Ma question s'adresse au Premier ministre ». Le fait est qu'aujourd'hui, il n'y a que le Premier ministre qui est dans la salle. C'est pour ça que c'est drôle.
La campagne présidentielle de 2007. Déjà à l'époque, vous dénonciez nos comptes publics. À l'époque, nous avions 1 200 milliards de dettes. Aujourd'hui, c'est deux fois plus. À l'époque, la dette s'élevait à 66% du PIB. Aujourd'hui, c'est deux fois plus. Alors, il faut le dire, pendant que la France insoumise et le Rassemblement national fêtent main dans la main la chute du gouvernement, ce sont les Français qui payent la note et elle est lourde. Car non, messieurs, dames, la censure du gouvernement n'a pas censuré nos déficits. La censure n'a pas effacé notre dette, dont les intérêts, mes amis, sont supérieurs au budget de la défense et bientôt supérieurs au budget de l'éducation. Alors la facture de la censure, elle est bien réelle. Et nos agriculteurs le savent bien, malheureusement. Quand la France voit sa note dégradée, ce sont les...
Il y a effectivement des agriculteurs qui ont dégradé des permanences parlementaires pour se plaindre contre le vote de la motion de censure contre Michel Barnier, vote de la motion de censure qui a mis fin au budget qui prévoyait des aides pour les agriculteurs.
Autour de Laurent Wauquiez, nous sommes convaincus que dans un pays qui détient le record des prélèvements obligatoires et celui des dépenses publiques, notre priorité doit être de faire des économies. Tous les gouvernements en parlent depuis 15 ans, aucun n'a eu le courage de le faire, il est temps. Ayons cette audace d'assumer que l'on peut faire mieux avec moins. Avec mon groupe, nous avons fait des propositions en ce sens. Entendez-nous, réduisons le train de vie de l'État, débureaucratisons, revalorisons le...
Vincent Jeanbrun, il a 40 ans, il a été collaborateur parlementaire de Valérie Pécresse.
Merci.
Il est député du Val-de-Marne et il a posé une question sur les questions de budget et de dette. Je sais que François Bayrou est très sensible à la question de l'endettement.
Il semble que j'ai oublié de vous saluer dans une réponse précédente. Et donc, je vous réitère ce salut initial. Monsieur le député Jean Brun.
Il est effectivement d'usage, quand on prend la parole à l'Assemblée, de commencer par remercier la présidente de la séance de nous avoir donné la parole.
Sur la question des finances publiques, sans être à l'époque totalement entendu par tous les bancs de cette Assemblée. Et c'est très important parce que je considère que la question des finances publiques n'est pas une question financière seulement, n'est pas une question économique seulement, c'est une question morale. Nous ne pouvons pas passer d'année en année, de décennie en décennie, comme nous le faisons.
Vous avez vu, François Hollande, il s'est assis à côté du député de place publique.
Nous ne pouvons pas passer sous silence la lâcheté qui est la nôtre, d'entretenir nos dépenses courantes en empruntant sur le dos des générations futures. Je considère pour ma part que ceci n'est pas digne de parents, de pères de famille et n'est pas digne de citoyens. Est-ce que la réponse est facile à trouver ? Elle aurait été trouvée depuis longtemps. Comme vous l'avez rappelé, ce débat-là que j'ai animé en 2007, il a donné ensuite lieu à un endettement important à partir de la crise de 2008. Et c'était votre courant politique qui était aux responsabilités principales. Et puis il y a eu cette succession de crises que nous avons vécues, les gilets jaunes, et puis le Covid, et puis la guerre, et puis l'inflation, et avouer que cette cascade de crises n'était pas tout à fait anodine. Et vous avez fini sur une idée, c'est qu'il faut faire des économies. Et vous avez raison de dire qu'il n'y aura pas de redressement sans faire des économies, que c'est une responsabilité.
François Hollande à l'Assemblée, moi ça continue à me fumer.
Partager. Je plaide pour qu'on prenne conscience du fait, oui, de l'exécutif aussi, et de ceux qui supplient l'exécutif de dépenser plus.
Ou alors François Bayrou, Premier ministre, je ne sais pas lequel des deux me fume le plus.
Je plaide pour que nous considérions ou que nous comprenions que nous sommes en situation de co-responsabilité. Et je vous assure que je vous suivrai dans ce sens dès l'instant que nous pourrons dépenser moins pour agir mieux. Et je crois que c'est possible.
Merci beaucoup.
Une réponse très générale et de principe du Premier ministre sur la question de la dette. Je vous le disais, François Bayrou a toujours été sur les sujets d'endettement dans tous ses programmes présidentiels quand il était candidat. Il mettait en tête la question du désendettement du pays. On écoute Stevie Gustave pour les écologistes.
Le cyclone Chido a laissé derrière lui un territoire de la République en ruine. C'est une crise humanitaire sans précédent qui bouleverse la nation. Des habitations éventrées, des corps retrouvés sous les décombres, des vies brisées. Le bilan humain partiel est d'ores et déjà dramatique. Le définitif s'annonce encore bien pire. Potentiellement, des milliers de vies, sans papier ou non, qui s'éteignent, même si ces corps restent enterrés sous la boue, même s'ils deviennent des fantômes administratifs, à jamais, ils continueront à hanter notre histoire nationale. Je tiens à saluer le courage et le dévouement des secours mobilisés sur place, pompiers, soignants, forces de l'ordre et tous les bénévoles incarnent la solidarité et l'engagement de la République dans l'épreuve. Mais ce drame frappe le département le plus pauvre de la République. À Mayotte, il manquait déjà tout avant le cyclone. Pas d'eau potable, un seul hôpital saturé et des conditions de vie et des habitants souvent indignes. Le risque d'épidémie est bien réel, sans eau, sans soins et sans abri. Comment assurer la survie des sinistrés ? Le cyclone n'est pas une exception, c'est l'incarnation de la crise climatique. Les catastrophes se reproduiront encore et encore et comme toujours, ce sont les plus vulnérables qui paieront le prix lourd. Pendant que Mayotte pleure ses morts et cherche ses disparus, que tant de citoyens se mobilisent, il nous est incompréhensible que vous ayez privilégié un conseil municipal, monsieur le ministre, monsieur le Premier ministre, plutôt que de vous rendre sur place. Ce choix vous engage. Que doit penser le peuple maoré d'un gouvernement qui regarde ailleurs pendant qu'il souffre ?
Stevie Gustave, il a 54 ans, il est député de l'Essonne, il a été producteur d'événements artistiques avec son label qui s'appelle Label Life Events. Il a été danseur de hip-hop professionnel, il a notamment dansé pour France Gall, figurez-vous. Stevie Gustave, qui pose une question sur Mayotte pour le groupe écologiste.
Que vous étiez à la hauteur de ce drame. Quand comptez-vous vous rendre à Mayotte ? Quelles mesures allez-vous prendre pour prévenir les épidémies ? Quelle action concrète en vue ?
Et les députés disposent de 2 minutes pour poser leurs questions.
Merci, monsieur le député. Merci de respecter le temps de parole qui est le vôtre. La parole est à monsieur le Premier ministre.
Premier ministre qui n'a pas de temps de parole, lui.
Madame la Présidente, monsieur le député Stevie Gustave, je répète que, comme l'expression de tous les groupes, vos mots sur les Mahorais, sensibles et justes, méritent d'être soutenu et partagé. Vous dites que le gouvernement n'était pas à Mayotte, ce n'est pas exact. Il y avait 2 ministres, le ministre de l'Intérieur et le ministre de l'Outre-mer, qui étaient hier à Mayotte, et le président de la République a annoncé qu'il irait à Mayotte. Il n'est pas d'usage que le Premier ministre et le président de la République quittent en même temps le territoire national.
Pour des raisons de sécurité.
Que
n'empêche que Emmanuel Macron a annoncé que lui allait se rendre à Mayotte dans les prochains jours, alors que Bayrou toujours pas.
Un nouveau gouvernement, et je le ferai dans les délais les plus rapides, comme nous en sommes d'accord avec le président de la République. Ce que vous avez effleuré comme situation ne doit pas être éludé. Il y a à Mayotte, en plus du drame que nous vivons, une déstabilisation qui dure depuis des années et qui tient à ce que des afflux de population sont vécus par la population mahoraise, pourtant avec des origines proches ou semblables, avec religion proche ou semblable, avec langue proche ou semblable, il y a des afflux de population qui sont très mal vécus. Est-ce que nous avons su le réguler ? Non. On peut le rappeler sans polémique. On n'est pas obligé de s'entre-accuser. C'est une situation sociale, appelons-la par son nom, qui est une situation critique. À cela aussi, nous devrons apporter des réponses. À cela aussi, nous devons être attentifs. Parce que les Mahorais, eux, sont pour une grande partie de la population profondément déstabilisés. Parce qu'ils ressentent comme une injustice dans leur propre espace de vie. Je n'ai pas l'intention de l'oublier non plus, sans en faire en aucune manière une question d'accusation réciproque, parce qu'une vie vaut une vie. Mais le sentiment de la population, de nos compatriotes mahorais, mérite d'être pris en compte. Ce qui nous a manqué, c'est la capacité. Et c'est très important pour notre avenir. C'est peut-être un sujet que nous devrons encore traiter ensemble.
Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. La parole est à présent à Monsieur Philippe Vigier pour le groupe démocrate.
Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Premier ministre, l'archipel de Mayotte a été dévasté, la France est en deuil, et je crois que cela exige de chacun un comportement à la hauteur et qui ne laisse pas de place à la polémique. Vous dire que, d'abord, il y a 2 mots qui reviennent immédiatement. D'abord, le mot « urgence ». Confirmez-nous que, comme c'est le cas depuis vendredi soir, que tous les moyens de l'État, des collectivités, des départements, des communes de Mayotte sont mobilisés, les sauveteurs, la réserve sanitaire, bref, tous ceux qui sont en capacité d'accueillir les blessés, de soigner, tous ceux qui sont en capacité de rétablir l'eau, de rétablir l'électricité, bref, de faire en sorte que la vie puisse reprendre. Mais l'heure aussi, Monsieur le Premier ministre, c'est à l'espoir et à l'exigence. Vous avez bien voulu rappeler tout à l'heure que sous l'autorité d'Elisabeth Borne avec Gérald Darmanin, on avait commencé à régler la crise hydrique, la crise de l'eau. Il nous faut, mes chers
collègues,
pour le logement, tout rebâtir, et j'espère qu'il n'y aura plus de recours lorsqu'on devra détruire des bidonvilles comme on l'a fait courageusement avec Gérald Darmanin. Il nous faut pour les enfants des écoles 20 000 enfants non scolarisés à Mayotte, 20 000 enfants non scolarisés, qu'on soit à la hauteur des enjeux. Il nous faut pour l'eau continuer ce que nous avons démarré. Il nous faut pour l'hôpital donner à Mayotte enfin les moyens afin d'éviter les évacuations sanitaires vers la Réunion. Il nous faut pour le secteur économique trouver les moyens, là encore, de faire en sorte qu'il y ait des filières. Il nous faut aussi la convergence des droits sociaux. À Mayotte, un RMI, il n'a pas la même somme que dans l'Hexagone. Le SMIC n'est pas le même que dans l'Hexagone. Alors, êtes-vous prêt, monsieur le
Philippe Vigier, il a 66 ans, il est député d'Eure-et-Loire, c'est un pharmacien biologiste, il est directeur d'un groupe de laboratoire d'analyse médicale dans l'Eure-et-Loire. Il est président du groupe du MoDem à l'Assemblée nationale et... Non, c'est pas lui le président, pardon, autant pour moi. Le MoDem, c'est un parti politique qui a été fondé par le maire de Pau.
Les moyens pour vous.
Merci beaucoup, mon cher collègue. La parole est à monsieur le Premier ministre.
Madame la Présidente, Monsieur le Ministre Vigier, vous avez souligné l'action qui avait été entreprise par le gouvernement auquel vous apparteniez sous l'autorité d'Elisabeth Borne, avec Gérald Darmanin comme ministre de l'Intérieur, pour résoudre la première crise hydrique. Et l'action que vous avez conduite a permis de passer le cap. On s'est inspiré...
Mais je ne vous l'ai pas dit, mais Philippe Vigier, il était ministre chargé des Outre-mer dans le gouvernement d'Elisabeth Borne. Donc c'est un peu logique que ce soit lui qui ait été choisi par le groupe pour poser la question sur Mayotte.
Des avions porteurs qui ne vont pas tarder, qui sont sur le point d'arriver à Mayotte, avec des bateaux qui vont prendre en charge des stocks de conteneurs importants d'eau et de nourriture. Et l'action que vous avez conduite a aidé. Vous avez rappelé que vous aviez mis en place un comité interministériel pour agir. Et la décision a été prise hier soir sous l'autorité du président de la République d'aller dans ce sens et de désigner un délégué interministériel. Je veux vous rassurer sur un point. Vous demandez où en sont... les personnels qui doivent rejoindre, 450 ont déjà rejoint et 800, plus de 800 sont sur le point d'être mobilisés et vont rejoindre à nouveau. Très important est le sujet de la reconstruction. J'ai indiqué que l'appel à projet qui me paraissait nécessaire va être lancé et je crois que l'assurance que l'État est là, déjà en place, que les progrès de remise en route du réseau électrique et du réseau de télécommunications est en cours de prise en main et les moyens nécessaires que vous avez évoqués. J'ai toujours pensé qu'on pouvait en effet traiter de ces questions par des lois pluriannuelles d'investissement et de services publics. C'est cette ligne-là que je crois il est nécessaire de suivre pour que personne ne doute de la volonté unanime sur ces bancs de soutenir Mayotte.
Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. La parole est à présent à Monsieur le Président Stéphane Lenormand pour le groupe Liberté, Indépendants, Outre-mer et Territoire.
Merci, Madame la Présidente.
Stéphane Lenormand, c'est le président du groupe Liotte.
Je porte ici, au nom du groupe Liotte, la question de la députée de la première circonscription de Mayotte, notre collègue Estelle Youssoufa, qui est sur place. Je porte ici ce cri du cœur.
Applaudissements de la part des collègues de Estelle Youssoufa, la députée de Mayotte, qui est sur place. On comprend pourquoi.
Cyclone, Mayotte est méconnaissable. Il ne reste plus rien de l'île. Elle est détruite à 90%, y compris les habitations en dur. Ses habitants ont été déjà durement éprouvés. Ils se retrouvent sans eau, sans électricité, sans médicaments, sans nourriture, sans aucune possibilité, bien souvent, de communication. Des familles entières demeurent sans nouvelles de leurs proches. La peur et le chaos vont s'installer. Les pillages ont débuté. Nous craignons un exode des fonctionnaires vers l'Hexagone, faute de conditions de vie minimales rapidement rétablies. Mayotte est aujourd'hui défigurée, dévastée, anéantie, monsieur le Premier ministre. Mayotte crie au secours, Mayotte est en détresse. Les rares structures publiques sont détruites, les bidonvilles rasées, les défunts sont enterrés à la hâte. Pourtant, hier, alors que se tenait une réunion de crise cruciale pour Mayotte, vous avez préféré présider le conseil municipal de Pau. Un choix qui peut évoquer l'indifférence et le mépris pour une population en danger. Comment justifier auprès d'elle ce sentiment d'abandon et d'urgence absolue ? Monsieur le Premier ministre, comprendrez-vous enfin la pleine mesure de cette catastrophe humanitaire ? Quand déclarez-vous l'état d'urgence et débloquerez-vous les fonds exceptionnels pour aider au plus vite cette population ? Quand allez-vous enfin répondre à l'appel de Mayotte ? Monsieur le Premier ministre, nous avons été capables de reconstruire Notre-Dame en moins de 5 ans. C'est notre défi moral humain de reconstruire Mayotte mieux, autrement, plus rapidement.
Stéphane Lenormand, il a 60 ans, il est député de Saint-Pierre-et-Miquelon, donc de l'autre côté de la planète par rapport à Mayotte. Ancien professeur de français et d'histoire géo.
Monsieur le Président, je sais bien que l'art de la pédagogie, c'est la répétition. Pour l'avoir pratiqué assez longtemps et souvent. Et donc, je vous répète que je participais à la réunion de crise autour du président de la République. Comme il arrive à beaucoup d'entre nous, je l'ai fait par visio. Et cette réunion a été fructueuse et précise dans les décisions qu'elle a prises. Je partage l'expression qui est la vôtre. On a été capable magnifiquement de reconstruire Notre-Dame en 5 ans. On a moins de temps que ça encore pour reconstruire, rendre à Mayotte, rendre à ses habitants des conditions décentes de vie et de logement. Ça ne pourra se faire que par un effort national, comme l'effort national a commencé à être déployé aujourd'hui. Je veux rappeler que pour les difficultés des hôpitaux, un hôpital de campagne militaire est en train d'être mis en place et d'être installé de manière que les réponses sanitaires puissent être apportées. Et comme l'a rappelé hier la ministre de la Santé, Madame Darrieussecq, nous avons pu évacuer les malades les plus en situation critique, notamment pour la dialyse. Nous avons pu les évacuer sur la Réunion pour que leur traitement ne soit pas interrompu. Ceci va nécessiter un effort de réflexion, de programmation et de financement qui implique tous les groupes de cette Assemblée et tous les bancs qui la composent. Nous n'y arriverons pas si nous laissions entraîner à faire ça les uns contre les autres. Je suis persuadé que ce type de catastrophe montre que l'unité nationale est une condition du redressement.
Merci beaucoup. La parole est à présent à Madame Félicie Gérard pour le groupe Horizon.
Le groupe Horizon, c'est le groupe des députés qui sont proches d'Édouard Philippe.
Madame la Présidente. Le groupe Horizon et Indépendance s'associe évidemment aux pensées et hommages exprimés pour nos compatriotes de Mayotte. Monsieur le Premier ministre, il y a 2 semaines, la censure du gouvernement de Michel Barnier a plongé notre pays dans l'inconnu. De loi d'urgence en décret inédit, l'appareil d'État se met en marche pour permettre à notre pays de continuer à tourner, mais aucune des urgences budgétaires n'est aujourd'hui réglée. Nos entreprises sont dans l'inconnu la plus totale. Les commandes s'effondrent, elles ne peuvent rien prévoir, rien anticiper de ce que sera l'année à venir. Sans annonce concrète dès maintenant, les plans de licenciement ne feront que s'intensifier dès janvier. Des pans entiers de notre économie s'effondrent dans une crise historique. Je pense entre autres au secteur du bâtiment, de l'automobile ou de l'agriculture qui attendent des réponses d'urgence. Sans oublier nos collectivités locales qui se demandent si elles pourront continuer à agir dans de bonnes conditions en 2025. Évidemment, ces difficultés ne datent pas de la censure, mais la censure ne fait qu'aggraver la situation. Monsieur le Premier ministre, de nos élus locaux, des Français qui se lèvent tous les matins pour aller travailler et faire tourner notre pays, se multiplient. Tous nous demandent de donner un cap à notre pays. Baisser le déficit et la dette de notre pays doit être la priorité absolue des prochains mois. Nous devons doter notre pays d'un budget de redressement.
Félicie Gérard, elle a 50 ans, elle est députée du Nord, du côté de Roubaix. Elle a bossé chez Enedis. Avant ça, elle a été très active dans le mouvement scout et dans l'aide aux enfants gravement malades. Elle a rejoint Horizon, le groupe de députés proche de Édouard Philippe, et elle pose une question sur le défi budgétaire qui attend François Bayrou.
Monsieur le Premier ministre, comment comptez-vous mener ce redressement budgétaire ? Quelles seront vos cibles de baisse de déficit et de baisse de dette ? Quelles seront la méthode et le calendrier ? Je vous remercie.
Merci beaucoup, Madame la députée. La parole est à Monsieur le Premier ministre.
Le Premier ministre, c'est François Bayrou.
Merci, Madame la Présidente. Madame la députée.
Ouais, le maire de Pau, ouais.
Partage votre préoccupation. Je n'ai jamais cru que c'était dans la fiscalité que se trouvait la réponse à tous les problèmes du pays. Car si c'était le cas.
Putain, mais les bugs de son aujourd'hui, c'est à chaque question, quoi.
La croissance et, pour tout dire, le bonheur d'un pays était indexé sur la fiscalité, nous serions aujourd'hui le pays le plus heureux du monde. Je crois à la nécessité de l'assainissement, mais je crois qu'elle ne peut être que progressive et que nous entrons dans une phase qui doit nous permettre, étape par étape, de revenir à un équilibre plus sain. J'avais défendu souvent, notamment sur la question du financement des retraites, l'ignorance dans laquelle nos compatriotes étaient tenus parce qu'on leur annonçait que ce financement des retraites était équilibré et même, j'ai adoré le « et même », légèrement excédentaire. Et donc, je n'ai jamais cru cela. Je pense aussi que, naturellement, le souci de justice doit être pris en compte. La fiscalité ne s'accommode pas d'un sentiment d'injustice. C'est tout cela que nous allons avoir à traiter. Je ne crois pas que ce soit uniquement par des impôts supplémentaires. Je pense nécessaire qu'on envisage des économies, mais je sais que cet équilibre-là est nécessaire à la société française.
Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. La parole est à présent à Madame Mériana Reid-Arbelot pour le groupe GDR.
Pardon, Mériana Reid-Arbelot, c'est la députée de la Polynésie française.
Une dévastation totale, un silence assourdissant. À Mayotte, une catastrophe naturelle se transforme en tragédie humanitaire. La violence du cyclone Chido, mais aussi la grande pauvreté de la population et l'extrême précarité de l'habitat font craindre à de très lourdes pertes en vie humaine. Mayotte est meurtrie, la France est en deuil. Une course contre la montre a commencé, contre la soif, contre la faim, contre le choléra et toutes les menaces épidémiques, contre les traumas et tous les dangers post-cycloniques. Porter secours à l'ensemble de la population sinistrée est une priorité nationale. Elle devrait être votre priorité prioritaire, Monsieur le Premier ministre. Dans un des plus grands déserts médicaux français, l'hôpital de Mayotte et son personnel dévoué ne peuvent faire face. Le CHU de La Réunion réceptionne les évacués sanitaires. Des équipes médicales sont arrivées sur place. Mais en quelques heures, tout, absolument tout, est devenu extrêmement critique à Mayotte, particulièrement l'accès à des lieux d'accueil, à l'eau potable, aux soins et aux réseaux de télécommunications. C'est pourquoi il faut mobiliser tous les secours au niveau international. La France a-t-elle sollicité l'OMS, les grandes ONG? A-t-elle prévu d'augmenter les moyens de la plateforme internationale de la Croix-Rouge de l'océan Indien? A-t-on fait appel aux navires de secours des pays voisins? Toutes les solidarités à l'œuvre et à venir doivent se conjuguer dès à présent avec l'engagement entier de l'État pour que soit enfin lancée une développement en lien avec les Comores et tout leur environnement régional. Monsieur le Premier ministre, la tragédie de Mayotte en appelle à la responsabilité de l'État pour venir en secours à tous.
Mériana Reid-Arbelot, elle a 54 ans, elle est ingénieure en chef du contrôle aérien à l'aéroport de Tahiti. C'est l'ancienne suppléante de Moetai Brotherson qui a été élue présidente de la Polynésie française. Elle a donc récupéré sa circo. Mériana Reid-Arbelot qui pose à son tour une question sur le secours à Mayotte.
Sur la question sanitaire. Il se trouve qu'en effet, la crainte des épidémies est liée à la situation que nous connaissons aujourd'hui. Vous voyez bien les composantes que vous avez très bien indiquées de la situation avec des victimes, avec des systèmes d'assainissement de l'eau en difficulté, et tout cela compose un paysage ou en tout cas multiplie les risques. C'est pourquoi nous avons demandé que se constituent des stocks de vaccins qui sont en train d'être mis en place pour une conservation optimale à La Réunion et immédiatement projetable à Mayotte. Le sentiment de gravité et de responsabilité que vous avez exprimé, je veux le saluer. C'est le nôtre et je suis sûr que les Mahorais le partagent. Merci.
Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Madame la députée.
Alors, la solidarité nationale, c'est bien. La coopération internationale, dans ce contexte, c'est mieux.
Merci beaucoup. La parole est à Madame Anan Mansouri pour le groupe UDR.
Anan Mansouri pour le groupe UDR. Le groupe UDR, ce sont les ciotistes.
Au deuil national et transmet tout son soutien fraternel aux habitants et aux secours à Mayotte. Monsieur le Premier ministre, tout d'abord, le groupe UDR vous souhaite la bienvenue dans vos nouvelles fonctions ici à l'Assemblée nationale. Fidèle à notre esprit de responsabilité, vous le savez, nous refusons toute censure a priori, contrairement à la gauche. Toutefois, le cadre de notre Constitution, hérité du général de Gaulle, nous garantit des moyens d'action pour défendre les intérêts du peuple et c'est ce que nous ferons. Nous avons donc trois questions majeures qui sont aussi nos lignes rouges. Premièrement, allez-vous rompre avec la logique budgétaire socialiste du précédent gouvernement qui prévoyait de racketter les Français avec 40 milliards d'euros d'impôts ?
À quand la rupture avec le socialisme ?
Nous sommes convaincus que les économies doivent se faire dans les dépenses de l'État et non dans les poches des Français. Il y a plus de 20 ans, avant même que je ne naisse, Monsieur le Premier ministre, vous parliez déjà du fardeau de la dette. Alors, le visionnaire que vous êtes, osera-t-il desserrer l'étau qui étouffe notre économie et hypothèque l'avenir des générations futures et de la mienne ? Enfin, la question de l'immigration de masse ne peut plus être mise sous le tapis comme le voudrait la gauche. Au moins pour Claire Géronimi, victime d'une agression par un OQTF qui a su trouver la force de témoigner de l'horreur qu'elle a endurée, mais aussi pour Lola, Thomas, Philippine, Nicolas et tous nos compatriotes que la France n'a pas su protéger, tués par notre laxisme d'État. Alors, Monsieur le Premier ministre, allez-vous répondre à cet appel des Français qui veulent que vous les protégiez ? Allez-vous, oui ou non, céder au chantage de la gauche en renonçant à cette loi immigration ?
Anan Mansouri, elle a 23 ans, elle est députée de l'Isère, du côté de Vienne. Elle est étudiante en droit administratif public à l'université de Grenoble. Elle a été présidente des Jeunes Républicains avant de rejoindre, enfin, Jeunes Républicains de l'Isère, avant de rejoindre Éric Ciotti. Y aura-t-il donc une rupture avec le socialisme de Michel Barnier dans le nouveau gouvernement de François Bayrou ? C'est ça la question.
Merci, Madame la députée, de votre mot de bienvenue. Il est sympathique et pour moi chaleureux. Vous demandez... Alors, je dois dire ensuite que l'accusation de socialisme pour le gouvernement qui m'a précédé n'était pas tout à fait arrivée jusqu'à ma conscience.
On est deux. Ça sautait pas aux yeux.
Et donc, c'est une occasion pour moi de saluer Michel Barnier qui a eu le courage d'occuper les mêmes responsabilités.
Ben oui, parce qu'il y a Karl Marx, Lénine, Staline et Michel Barnier. C'est ça le socialisme, quoi.
Je ne le taxerai pas de socialisme pour ne faire de peine ni sur les uns ni sur les autres de ces bancs. Est-ce que la question de l'immigration préoccupe nos concitoyens ? Oui. Est-ce que nous pouvons la traiter sur des données objectives en essayant de trouver une ligne de conduite ? Je crois que oui. Et donc, je serai naturellement heureux à cette tribune dans quelques jours, quand le gouvernement sera formé, de défendre un point de vue. Est-ce que ce point de vue fera l'unanimité absolue ? Je n'en suis pas sûr. Mais je crois qu'il sera de bonne foi et qu'il pourra être analysé comme tel. Et nous avons besoin de cette bonne foi en même temps que de la mobilisation de tous, comme c'est le cas pour Mayotte que nous avons longuement traité aujourd'hui, ce qui me permet de ne pas oublier de saluer Tani Mohamed Sohili, membre du gouvernement et élu de Mayotte que nous n'avons pas nommé et qui mérite peut-être nos encouragements et nos applaudissements. Merci à tous.
Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. La séance des questions au gouvernement est terminée. La séance est levée. Merci à tous.
La séance des questions au gouvernement est terminée. La séance des questions à François Bayrou. Mesdames et messieurs, vous avez assisté à un truc unique qui n'était jamais arrivé dans l'histoire de la Ve République. Un gouvernement représenté par une seule personne, le président, le Premier ministre François Bayrou. Ah si, il y a eu une fois où c'était arrivé. C'était pendant le Covid. Je ne sais pas si vous vous souvenez, pendant le Covid, au moment du confinement, l'Assemblée nationale aussi était confinée et il y avait eu une séance de questions où il n'y avait que le Premier ministre qui était présent, c'était encore Édouard Philippe. Et il n'y avait qu'un seul député par groupe présent dans l'hémicycle. Ça faisait hyper bizarre. Hein. C'était vraiment, il y avait 7 personnes dans l'hémicycle et le Premier ministre. De mémoire, c'était Édouard Philippe. Sur cette séance-là, celle à laquelle je pense, c'était le tout premier confinement, c'était encore Édouard Philippe. Ça gueulait ? Non, ça gueulait pas. Non, tout le monde était à peu près d'accord. Vraiment, c'était la séance des questions au gouvernement où tout le monde était en mode avec sa petite feuille. C'est la merde. Qu'est-ce qu'on fait ? Édouard Philippe qui répondait ouais, c'est la merde. Qu'est-ce qu'on fait ? Bah, on fait au mieux, on essaye, on confine, on voit ce que ça donne, on check, le conseil scientifique travaille. Tous les pays du monde sont dans la même situation. C'était un peu vertigineux, je m'en souviens. Une séance de questions à François Bayrou, donc, en grande partie consacrée à Mayotte. Hein. Le sujet du moment, c'est Mayotte, le département de Mayotte qui a été ravagé par le typhon Chido, si c'est bien son nom, qui soulève beaucoup de questions, d'autant que François Bayrou, hier, François Bayrou est le maire de la ville de Pau et il a bien l'intention de rester maire de la ville de Pau tout en étant Premier ministre. Il s'est donc rendu à la préfecture d'abord, où il a participé en visioconférence au comité d'urgence mise en place, à la cellule de crise mise en place autour du président de la République sur la situation à Mayotte, avant de filer à l'hôtel de ville de Pau pour présider le conseil municipal. Est-ce qu'il a le droit ? Oui, il a le droit. Premier ministre, ce n'est pas un mandat, donc ce n'est pas techniquement un cumul de mandats. Il a le droit de rester maire de sa ville. Il y est allé en jet privé, absolument. Le Premier ministre bénéficie des moyens de l'État pour le déplacement des personnalités du gouvernement, de l'armée, etc. Il y a un service de l'armée de l'air, je crois, qui est spécialisé dans le transport des VIP. La République française dispose de plusieurs avions, les avions présidentiels, vous savez, voilà, il y en a plusieurs, il y a des avions qui permettent de traverser la planète, des A330, des trucs comme ça, qui permettent d'aller à l'autre bout de la planète pour des déplacements protocolaires et diplomatiques. Et puis il y a des plus petits jets privés, notamment des Falcon du constructeur national, Dassault, c'est la France. Donc la France a acheté à Dassault des jets privés qui sont utilisés exclusivement pour le transport de VIP, les VIP étant les membres du gouvernement qui doivent se déplacer rapidement pour être sur le terrain. Voilà. C'est aussi pour des raisons de sécurité, évidemment. Hein. Vous vous doutez que le Premier ministre ne voyage pas sur EasyJet hein, ou sur Air France pour des raisons de sécurité, la mallette nucléaire, tout ça. C'est le COTAM pour le transport des autorités françaises. Absolument, vous avez raison, c'est le COTAM. Il s'appelle le COTAM. Alors, je ne sais plus ce que c'est l'acronyme de quoi, mais ouais. Et le train ? Alors, je me souviens qu'il y avait un président normal qui a été élu, hein, qui s'appelait François Hollande. François Hollande, il avait été élu président. Il voulait une présidence normale pour faire une rupture avec Nicolas Sarkozy, qui était un hyper-président, très critiqué pour ça. Et il avait dit, moi, président de la République, je me baladerai en train. Et il l'avait fait. Il avait fait un déplacement du président de la République en TGV. Ça avait été un bordel d'organisation stratosphérique. Il avait fallu bloquer deux wagons du train pour le président et son entourage, enfin, les gens qui se déplacent avec lui, ses conseillers, ses gardes du corps, etc. Il avait fallu bloquer une grande partie de la gare pendant une bonne partie de l'après-midi pour faire en sorte que le président de la République puisse se rendre rapidement dans son train et qu'il ne croise pas des gens qui n'aient pas été préalablement fouillés, contrôlés, etc. Il avait fallu évidemment bloquer les boulevards pour faire arriver sa voiture, machin. Il avait évidemment fallu que le train attende le départ du président, l'arrivée du président pour partir. Donc ça avait mis absolument tout le monde en retard. Ça avait foutu un bordel monstrueux sur l'organisation des trains sur la ligne à grande vitesse du TGV, parce que du coup, il y a des trains qui ont dû s'arrêter pour laisser passer le train et puis reprendre leur créneau parce qu'ils étaient en retard. Ça avait foutu un bordel monstrueux à la SNCF. Et puis, pendant tout le déplacement du train, il y avait un hélicoptère de l'armée qui volait pas très loin, qui survolait le train à haute altitude. Là, il avançait avec lui parce qu'il est hors de question pour des raisons de sûreté nationale que le président de la République soit coincé dans un train en cas d'attentat, en cas d'attaque, en cas de risque chimique ou nucléaire. il faut pouvoir extraire le président de la République extrêmement rapidement. Donc tout était prévu, enfin rien n'était prévu, ils avaient juste envoyé un putain d'hélico avec des commandos marines dedans qui suivaient le train, et si jamais il y avait un problème, on pouvait arrêter le train en pleine voie, descendre dans le champ d'à côté, poser l'hélico, récupérer le président de la République et se barrer. Voilà. Donc à l'issue de cette expérience, comment dire, l'Élysée, l'armée, la SNCF, les autorités de régulation du trafic aérien se sont tous mis autour de la table et ont dit « D'accord, donc on va arrêter. En fait, c'est de la merde. On va faire comme d'habitude. Hein, on va prendre une voiture, on va aller à Villacoublay. À Villacoublay, on monte dans un jet, on trace. Avion de l'armée, prioritaire, atterrissage, récupération par un véhicule officiel de la préfecture. Voilà, comme d'hab, en fait. Donc, on a arrêté le... La sécurisation des ponts. Ouais, je me souviens qu'il y avait des articles qui parlaient de la sécurisation des ponts. Je ne sais pas s'il l'avait fait, mais il avait été question, effectivement, que sur tout le trajet du TGV, il y ait des gendarmes, des départements traversés, qui claquent leur après-midi pour aller fermer un pont à la circulation, juste le temps que le TGV passe. Voilà. Autant le mettre directement dans l'hélico. Exactement, voilà, c'est ce que tout le monde s'est dit à l'issue de ce truc-là. Tout le monde s'est dit, bon, on va peut-être préférer foutre le président dans l'hélico directement, hein, ça ira de la même vitesse déjà, ça va à peu près à la même vitesse qu'un TGV, et puis ce sera vachement plus simple à gérer. Donc voilà. Comment ça se passe pour les trajets en voiture ? Les trajets en voiture du président de la République sont gérés par un convoi de motards de la gendarmerie nationale spécialisés là-dedans. Il y a des motards dont c'est le métier. Donc, tu sais, ils font un convoi avec des motards qui arrêtent le trafic à chaque carrefour. La voiture, elle passe à pleine balle, puis la moto rattrape. Ils font un relais avec les mecs devant, derrière. Tout. Voilà, c'est comme ça que ça marche. C'est plutôt facile, en l'occurrence. Tout ça pour le député François Hollande. Tout ça pour le député de Corrèze. Non, ça c'est pour le président de la République en exercice. La France est une puissance nucléaire. Le président de la République, c'est le chef des armées. Ça implique 2-3 trucs, notamment le fait qu'il doit toujours être joignable, qu'il doit toujours être localisable, qu'il doit pouvoir être extrait et mis en sécurité rapidement en cas d'attaque terroriste. Je vous rappelle que la France a été frappée par des attaques terroristes en 2015, donc c'est pas comme si c'était un truc étranger. Des tentatives d'assassinat, c'est déjà arrivé, y compris sur un président français, sur des présidents français. Donc pour toutes ces raisons-là, il y a des enjeux de sécurité autour de la personne du président. Moi, j'avais organisé un live sur ma chaîne en 2019, pour celles et ceux qui s'en souviennent, où on avait reçu le Premier ministre sur Twitch. Bon, bah, à 6h du matin, il y a des policiers qui sont venus au studio avec des chiens renifleurs pour vérifier s'il n'y avait pas un explosif. C'est le protocole, c'est la procédure. Alors en plus, on a appris la veille, genre à 22h, que le lendemain matin, il y avait des flics qui allaient débarquer avec des chiens. Du coup, on a dit à tous les techniciens, putain, planquez la drogue. Il y a des chiens renifleurs, il y a des flics qui arrivent à 6h du mat. On avait un peu tous paniqué, on a commencé à cacher la weed, etc. Enfin, vraiment, à mettre ça dans des sacs à dos, à les embarquer, à les bouger, etc. On a sorti de l'eau de Javel pour commencer à javeliser l'escalier d'accès parce qu'il puait la pisse et on avait peur qu'il y ait aussi des traces de drogue parce qu'il y avait des drogués dans le coin et tout. Enfin, bref. Et bon, les flics étaient arrivés avec des hinches et puis ils avaient reniflé tous les studios et tout. Les espaces de stockage, machin. Et on avait demandé aux flics, et les flics nous avaient dit « Ah non, mais les chiens renifleurs de stupéfiants, c'est pas les mêmes que les chiens renifleurs d'explosifs. C'est pas les mêmes. Ils sont pas entraînés de la même manière, donc les chiens là qu'on a, nous, c'est des renifleurs d'explosifs. Donc s'il y a de la weed, ils le sentiront pas. Donc toi, il est en mode « Ah, ah bah d'accord. Ah bon, bah d'accord. Bon, non, on demandait comme ça. On avait pas de machin. » Et je me souviens en 2016 d'un événement qui avait lieu à Paris, du côté de la Villette, où le président de la République était annoncé. Et on ne savait pas si le président allait venir ou pas, mais il avait été annoncé. Et bah, à l'entrée du bâtiment, il y avait des flics qui fouillaient tous les sacs et qui faisaient des palpations de sécurité. Il y avait des chiens renifleurs qui passaient pour checker, machin. Il y avait des sécurisations qui avaient été prévues avec des fourgons de police pour l'arrivée du véhicule du président, machin et tout. Et puis finalement, on a appris que le président ne viendrait pas. Tout ça pour rien. Bah oui, mais parce que le président, son cabinet, etc., ont décidé une demi-heure avant que non, il y a plus important. Là, il doit avoir Barack Obama au téléphone. Donc il y a des trucs à gérer. Donc désolé, l'événement un peu sympa. Il aurait adoré y aller, mais c'est pas possible. Il reste dans son bureau et il continue les négociations sur je sais pas quel dossier. Donc bref, là je vous parlais du président de la République, mais tout ça est globalement valable aussi pour le Premier ministre, qui est le troisième personnage de l'État, mais bon, le deuxième véritable personnage de l'État en termes de pouvoir effectif. Les systèmes de la sécurité, l'organisation de la sécurité et des déplacements d'un Premier ministre, ça se fait effectivement avec des gyrophares, avec la gendarmerie, avec le GSPR qui est spécialisé là-dedans, et avec un parc d'avions et d'hélicoptères qui servent qu'à ça. Voilà. Pour le maire de Pau, oui, le maire de Pau aussi bénéficie d'un protocole de sécurité avancé. C'est quoi le deuxième personnage de l'État ? Protocolairement, le deuxième personnage de l'État, c'est le président du Sénat. Protocolairement. Mais c'est vraiment du protocole, hein. C'est histoire de dire mes respects, tout ça, machin. La réalité du pouvoir, c'est président, premier ministre. Mais oui, d'ailleurs, je vous rappelle que c'est le président du Sénat qui assure l'intérim de la présidence de la République en cas de décès ou d'empêchement du président en exercice. Donc, c'est le deuxième, quoi. Alors, pour le coup, Gérard Larcher, lui, il est détente, hein, en termes de protocole de sécurité. Je l'avais reçu, je l'avais interviewé. À l'époque, les studios que j'utilisais pour faire mes émissions, c'était à Ivry-sur-Seine, dans un centre commercial. On avait un étage du centre commercial dans lequel il y avait des entreprises et des studios de tournage. C'est ceux-là qu'on utilisait en l'occurrence. Et du coup, j'avais dit... donc j'avais donné l'adresse, je me suis retrouvé au téléphone avec la chef de cabinet de Gérard Larcher. Je lui avais dit, bon, voilà, on est à telle adresse à Ivry-sur-Seine. Elle me dit, ok, très bien. Et je lui dis, par contre, je vous préviens, on est dans un centre commercial. Est-ce que vous préférez, en termes de sécurité, qu'on fasse passer le président par les ascenseurs de service ? Parce que c'est possible, il y a un quai de déchargement, etc. Elle m'a dit « Oh non, non, oh, non, vous inquiétez pas. Hein. » Gérard Larcher, il avait débarqué dans le centre commercial, peinard, en mode « Ok, let's go. Prends l'escalator pour monter au deuxième étage, comme ça. » On a pris l'escalator. Alors vraiment, lui, détente. Sécurité, tout ça. « Bon, ça va, je vais faire une interview avec un petit jeune sur Twitch. Quoi le problème de sécurité ? On s'en branle. » En vrai, il est sûrement gaulerie. Il est extrêmement impressionnant, Gérard Larcher. Moi, j'ai reçu Gérard Larcher sur mon plateau. À l'époque, je faisais une émission pour Public Sénat qui s'appelait Sénat Stream sur Twitch. Et j'interviewais des sénateurs et des sénatrices toutes les semaines. Et une semaine, j'avais reçu le président Gérard Larcher. Je m'attendais à recevoir... Je m'étais un peu laissé illusionner par le physique. Vous voyez ce que je veux dire ? Je pensais recevoir un gars un peu bonhomme. Un peu mou, gentiment centriste. Mais en fait, j'avais un tigre politique sur mon plateau. Il était incroyable. Il était capable de me faire des réponses hyper fines, drôles, ironiques, cyniques, extrêmement bien dosées, puis immédiatement de snapper, de retourner dans un rôle très protocolaire de respect des institutions, etc. Je l'interviewais, je sentais que là-haut, ça turbinait sa race. Et c'est pas du tout un mec lent, c'est pas du tout un mec bête, pas du tout. Il est pas là pour rien. Il réfléchit plus vite que toi. Et vraiment, c'était ouf. Il me sortait des trucs, j'étais en mode, putain, mais le mec, il esquive pile poil mes questions, bien comme il faut. Il fait preuve d'humanité, de sensibilité et d'émotion à un moment très précis, pour ensuite rebasculer sur un truc très protocolaire. J'étais en mode, waouh, le caméléon, sa mère. Il lisait le chat. Oui, vous vous en souvenez ? Est-ce que vous vous en souvenez ? Pour celles et ceux qui s'en souviennent, parce que c'était il y a quelques années maintenant, Gérard Larcher, je l'installe dans le studio. On était sur le canapé, c'était une époque, donc mon émission qui s'appelait Sénat Stream. J'interviewais des sénateurs en les mettant dans un canapé club. Le but, c'était de sortir de l'interview politique hyper prout-prout, bien coincé, etc. Je les foutais dans un canapé hyper confortable et je faisais des interviews portraits qui duraient assez longtemps. Et Gérard Larcher, on arrive dans le studio et tout, je l'installe. Et je lui dis en face de lui, vous avez une télévision avec le retour des caméras, et sur le côté vous verrez ça défile, c'est le chat en fait, ce sont les internautes qui peuvent interagir avec l'émission. Et lui il voit ça, il fait ah ouais, et il commence à lire comme ça alors que l'émission a pas encore commencé. Il y avait déjà des petits rigolos parmi vous qui étaient dans le chat en train de dire des conneries, et ça le faisait trop marrer le principe. Et donc je lui dis tout de suite ce que je disais à tous mes invités, je lui dis: rassurez-vous, vous n'êtes pas du tout obligé de le lire. Moi, je m'en occupe, c'est mon rôle. Je vous dis juste que c'est là, mais vous n'êtes pas du tout obligé de le lire ni de répondre aux questions, etc. Et lui, il a fait non, mais au contraire. Hein. Et il a passé toute l'interview à regarder le chat. C'était un des seuls sénateurs que j'ai reçu qui a lu le chat pendant l'intégralité de l'émission. C'était Gérard Larcher. Donc c'est vous dire à quel point là-haut ça turbinait, parce que pendant que je lui posais des questions qu'il devait réfléchir à sa réponse, il lisait les commentaires dans le chat. Enfin, assez impressionnant. Vraiment impressionnant, quoi. Voilà, donc je l'ai raccompagné après et je me suis dit, putain, il n'est pas président pour rien. Président du Sénat. Bon allez, non, il faut quand même que je vous raconte une anecdote avec Gérard Larcher. Non, deux anecdotes que je vais vous raconter avec Gérard Larcher. On arrive au studio, donc moi je vais chercher Gérard Larcher en bas, je le fais monter dans le centre commercial machin. Je le fais monter dans le centre commercial et je l'installe dans un espèce de petit endroit où on a un petit espace où on peut poser une tasse et mettre ses affaires, etc. Je reste avec lui, on est à 15 minutes du début de l'émission, tout va bien, etc. Et puis à 7 minutes du début de l'émission, je lui dis « Monsieur le Président, je vous invite à me suivre, on va se diriger vers le studio. » Donc il se lève, il me suit, on marche dans le couloir, il y a un couloir un peu long pour arriver jusqu'au studio. On marche dans le couloir et Gérard Larcher a un pas assez lent. Ça, il faut le reconnaître, il a un pas assez lent. Et là, il y a le directeur commercial de l'époque, s'appelle Antoine, que j'embrasse très fort, il bosse chez OTP maintenant. Qui vient me voir pendant que je marche à côté de Gérard Larcher. Et il me dit « Je peux te parler, Jean ?» Donc moi, je le regarde, je lui dis « Bien sûr que non. » Frère, je suis à côté du président du Sénat, c'est pas du tout le moment, là, comment te dire ? Et il me dit « Si, il faut que je te parle. » Excusez-moi, monsieur le président. Il me dit « Alors, en fait, il y a une soufflerie d'évacuation d'air incendie qui vient de s'ouvrir au-dessus du studio. » Ça fait un son de 200 décibels. Et on est en train de voir comment le refermer, mais là, le studio, il n'est pas praticable. Je regarde le couloir. Il nous reste 25 mètres à marcher. Je me dis OK. Je regarde Antoine. Je lui fais t'as 1 minute et 30 secondes pour me sauver la vie. Il me répond on est sur le coup. Il se barre. Moi, je marche. Alors, je presse pas le pas. Je presse pas le pas, mais quand même, on est en train d'avancer, etc. Machin. J'arrive dans le studio, il n'y a aucun bruit, tout va bien. Et on a fait l'émission et tout s'est bien passé. Et après l'émission, je demande à débriefer avec Antoine, je dis « Mais putain, mais raconte-moi. » Il me dit « Mec, c'était horrible, donc c'était effectivement une soufflerie qui s'est ouverte, on sait pas pourquoi. Truc pour évacuer les fumées, vous savez, machin. Il m'a dit « On est descendu en courant jusqu'au poste de sécurité du centre commercial en leur disant « Il y a un problème sur le toit avec une soufflerie ouverte, etc. » Le directeur de la sécurité du centre commercial a commencé à marcher avec eux pour les suivre. Mais eux, ils étaient un peu pressés parce qu'ils avaient conscience de l'urgence du problème. Et lui, par contre, il était extrêmement détendu, c'est-à-dire qu'il n'avait pas l'intention de se presser. Et apparemment, le ton est monté entre les mecs de la boîte de prod et le directeur de la sécurité qui vraiment n'était pas pressé. Ils ont fini par le menacer en mode « Frère, on va t'allumer la gueule si tu accélères pas le pas. Là, faut vraiment que tu cours, en fait. Genre, c'est urgent. » Et ça a dû monter là-haut au bout d'un moment avec le directeur qui a fait « Ah bon, d'accord, donc il y a vraiment un problème. » Donc ils ont commencé à tracer des rats. Ils sont arrivés sur le toit. Il avait sur lui la clé qui permet de fermer le machin, etc. Et ils ont fermé la soufflerie au moment où Gérard Larcher est rentré dans le studio. Donc on a rien, nous, on n'a rien entendu. Tout s'est bien passé et tout. Mais voilà, quoi. En quoi c'était urgent ? C'était urgent parce qu'en plus du président du Sénat, il y avait aussi le directeur de Public Sénat qui était là, qui était notre partenaire et notre client, et que là, on s'apprêtait à passer pour des pitres devant notre client et qu'on risquait de ne pas avoir la reconduction du contrat. Le genre de truc sur lesquels les producteurs comme moi, on est un peu tatillon, tu vois. Donc tout s'est bien passé. Zéro pression. Ouais, voilà, zéro pression. T'as le président du Sénat et ton client à pas décevoir. Et comme par hasard, il faut que ce soit aujourd'hui que cette connerie se déclenche. On n'a jamais eu de problème en 2 ans, 3 ans. Des broutilles, ouais, des broutilles, ça va. Alors, la deuxième anecdote, c'est pas très sympa pour Gérard Larcher, mais... Donc, je vous disais, je faisais des interviews de sénateurs et je les installais dans un fauteuil club. Et moi, j'étais installé dans un fauteuil également. Non, eux, ils étaient dans un canapé club. Vous connaissez les canapés en cuir un peu cool, là, machin. Pour ceux qui suivaient à l'époque, c'est le canapé de gaming. Hein. C'est le canapé de gaming qui a fait toutes les années. Tous les streamers de France sont passés dessus, y compris Gérard Larcher et la moitié du Sénat. Et donc, je les installais dans ce canapé qui est effectivement un canapé extrêmement confortable. C'est vraiment les canapés club. Tu t'enfonces dedans, t'es bien. C'est pas les canapés durs de salle d'attente où t'es un peu raide et tout. Non, non. C'est le canapé où vraiment tu t'enfonces. Donc j'ai interviewé Gérard Larcher pendant 1 heure dans ce canapé. Et à la fin de l'interview, on a rendu l'antenne, etc. Et moi, je me lève et je lui dis, monsieur, merci beaucoup, monsieur le président, je vous raccompagne. Et là, il me dit, oui, bien sûr, attendez. Et là, je vous jure que c'est vrai, il n'a pas réussi à ressortir du canapé. Je me suis retrouvé dans un moment de solitude absolue, seul, dans un studio de tournage, avec le président du Sénat à côté de moi, qui était en train d'essayer de donner des à-coups vers l'avant pour sortir du canapé tellement... Il n'y arrivait pas. Donc il y a un moment où je me suis dit, est-ce que je vais tendre la main pour essayer de le tirer, ce qui est probablement un manque de respect, je ne sais pas. Et puis surtout, pardon, mais est-ce que je vais réussir à le tirer? Est-ce que je vais réussir à le tirer? Et il a fini par s'en sortir tout seul comme un grand au bout du 7 ou 8e essai, comme ça, en se mettant un peu sur le côté, machin. Il est sorti du canapé, il était tout rouge, un peu gêné. J'ai absolument rien dit, j'ai fermé ma grande gueule. Je vous raccompagne, monsieur le président. Donc voilà, j'ai vécu ce moment de grande solitude tout seul. Faut pencher le canapé discrètement. Ouais, vous avez retrouvé l'archive. Attendez.
Et ensuite, c'est le bureau.
Voilà. Vous voyez le canapé club ? Bon, ben voilà, il était bien enfoncé dedans.
De chacune des assemblées qui verra comment on gère un éventuel régime supplémentaire, facultatif, mais qui sont dans des règles de transparence.
Il regarde le chat.
Notre régime.
Là, il regarde le chat. Il voit que ça défile, etc. Tu sens que son regard est attiré par le chat.
Il est avantageux, mais il coûte plus qu'un seul député, un sénateur.
Il faut toujours faire des exceptions.
Non, on ne peut pas faire des exceptions. La Constitution, la règle est la même pour tout le monde. Et je dois dire que sur ces sujets-là, nous ne sommes pas à aujourd'hui mis d'accord.
C'était Rambo qui faisait la réal. C'était plus Rambo qui faisait la réal, non, c'était Quiche. C'était Quiche et Baïdi. Baïdi qui faisait le son et Quiche qui faisait la réal. Et Baïdi qui aujourd'hui fait le son de temps en temps sur Backseat. Ça me fait plaisir de retrouver Baïdi, dis donc. Donc voilà, ouais, l'interview de Gérard Larcher, c'était en 2020. C'était en février, le 14 février 2020. Mais attends, on était au tout début du Covid. On était à quelques jours du Covid. 14 février. Parce que moi, j'ai... Mais... Ah, le 13 mars, le confinement, vous avez raison. On était à un mois. On était à un mois du confinement. Bah, je ne me souviens plus si je lui ai posé une question à Gérard Larcher sur... Vous avez entendu parler du virus chinois ? Apparemment, on en parle un peu, là. Apparemment, je sais pas, on ne sait pas trop ce que c'est. En Italie, c'est un peu le bordel, apparemment, dans certaines villes. Ça vous dit quelque chose ? Non. Le pangolin. Une histoire de pangolin. Osef, ça arrivera jamais chez nous. Oui, oui, non, c'est ça, c'est un truc de chinois. C'est un truc de chinois de Chine. Donc ça nous arrivera pas. Non, 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 mais attendez, hey, on est une grande puissance, hein. Tu crois quoi? Ça va. Ouais, ouais. Donc voilà les anecdotes sur l'interview de Gérard Larcher. Et j'étais très content de cette interview, hein, qui s'était très bien passée. Il était assez impressionnant. Et déjà, il était un peu critique de Macron, je me souviens. Il lâchait des punchs et tout, c'était marrant. On a un grand spécialiste à Marseille, on craint rien du tout. On a un immense spécialiste à Marseille qui est une sommité, une légende vivante qui brûle la rétine quand on le regarde directement. Et en plus, si jamais on doute, on a Idrissa Berkane. Donc franchement, attends, un grand pays comme le nôtre, je crois vraiment qu'on... Non, c'est bon. On est là, on est large. Combien de PhD, Idriss ? Plus que toi, plus que moi, plus que nous. Plus mieux en plus. Non, non, mais cherche pas, hein, y a pas de... Non, non. Tu vas recevoir Idriss dans Backseat, il a quand même 25 thèses. Ah oui, bah faut qu'on le reçoive, hein, c'est hyper important, attends. Mais je suis pas sûr qu'on réussisse à l'interviewer, hein. Idriss Berkane, parce que Idriss Berkane, c'est un niveau quand même... Enfin, nous, on vole pas à ces altitudes-là, hein. Il est possible qu'on comprenne rien à ce qu'ils disent, parce qu'on n'a pas le niveau. Moi, j'ai un Master 2... Usu, il n'a pas fait d'études. Non, attends. On parlait du président du Sénat, je suis allé aux toilettes, on parle d'Idriss Berkane, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, t'es pas au courant? Idriss Berkane est devenu président du Sénat. C'est dans la Constitution, c'est écrit, c'est dans la Constitution. Quand t'as 3 PhD... Tu peux être président du Sénat. Pourquoi on parle de ces conneries ? De quoi on parlait ? On parlait du président du Sénat, on parlait du Covid. Oui, c'est ça, on parlait du Covid. On parlait du Covid, du fait que j'ai interviewé, du coup, le président du Sénat, un mois avant le Covid. J'avais interviewé un sénateur communiste aussi 3 jours avant le tout premier rassemblement des Gilets jaunes. Vous vous souvenez ? Parce qu'il y avait des appels sur Facebook à mettre le Gilet jaune sur le tableau de bord de sa voiture pour signifier son ras-le-bol de la taxe carbone. Okay, donc ça, c'était le début. Et le mouvement avait assez bien pris sur Facebook, ça marchait bien, il y avait des pages qui commençaient à avoir quand même pas mal de likes et tout, et moi je me souviens sur les routes, on voyait quand même pas mal de gilets jaunes qui étaient posés sur le tableau de bord des bagnoles, et il y avait eu un premier appel à se rassembler sur les ronds-points pour gueuler contre Macron, contre la taxe carbone, mais plus globalement, et c'était encore un peu confus à l'époque. C'était encore un peu confus à l'époque, et il y avait notamment des leaders d'extrême droite bien connus, hein, qui avaient relayé l'appel et qui avaient incité à se rassembler sur les ronds-points, machin et tout. Et 3 jours avant, j'interview un sénateur communiste et je lui dis Est-ce que vous avez entendu parler de cet appel au rassemblement dans trois jours, le week-end prochain, sur les ronds-points de ces gilets jaunes qui ont des revendications, qu'est-ce que vous en pensez, etc. Il m'a dit, et je lui ai dit, est-ce que vous irez à cette manifestation-là? Il m'a répondu, jamais de la vie, j'irai à cette manifestation, ce sont des fascistes. Voilà. C'était le début. C'était le début du mouvement. On savait pas encore où ça allait aller. Effectivement, il avait raison. Ça avait pas mal tourné dans la presse, y compris de la presse de gauche à l'époque, que l'appel à rassemblement avait été relayé par des vrais fachos. Hein, pour le coup, des vrais fachos. Le début du mouvement des Gilets jaunes, c'était pas un début très clair. La France insoumise l'a pas rejoint tout de suite le mouvement. Ils ont mis un peu de temps. Fallait voir un peu comment ça montait, sur la base de quoi et tout. Si c'était un ras-le-bol fiscal, les gens de gauche, ils voulaient pas. Ils voulaient pas y aller, évidemment. Hein. Si c'est une jacquerie anti-fiscaliste, le petit patron, etc., c'est mort. Un truc genre bonnet rouge, on veut pas payer de taxes et tout. Ça, la gauche, c'est pas trop leur truc. Par contre, si c'est un truc sur la fin du mois et tout, là, éventuellement, pourquoi pas. Je viens de débarquer, t'as lu les articles de Libé sur Soral? Oui, oui, bien sûr. C'est pas très intéressant, mais... Enfin, c'est édifiant. Donc voilà, le début... Ouais, ça, je m'en souviens, ouais. Quand on avait fait l'émission avec Castaner, ces vigiles m'avaient pas laissé entrer dans les locaux parce que Madame Ski avait pas mis mon nom. Ouais. Bah oui, quand on avait reçu Christophe Castaner, il y avait les vigiles qui checkaient les noms des gens inscrits sur le public. Et Madame Ski, c'était la chargée de prod, que j'embrasse très très fort, qui elle aussi travaille pour OTP. Elle n'avait pas mis ton nom sur la liste. Du coup, tu t'étais fait bloquer par les vigiles de Castaner. Je suis désolé. Je suis désolé. Ouais, c'est Claire. Claire, Madame Ski. Elle est extraordinaire, hein. C'est vraiment quelqu'un de super. Bayrou va faire un live depuis le conseil de classe de son petit-fils. Alerte. Incroyable. Bon, du coup, demain, il n'y a pas de séance de questions au gouvernement. Je présume, je suppose, je suppute. Ah non, c'est niqué, hein. Mardi, mercredi. Ah bah si, il y a une séance de questions au gouvernement. Non, ça c'est mardi 14 janvier, pardon, excusez-moi. Non, on est d'accord, demain il n'y a pas de séance. C'est fini, ils ont voté la loi spéciale, c'est fini. Ok. En vrai, si Bayrou veut pas quitter Pau, c'est probablement parce qu'il sait qu'il va pas rester Premier ministre longtemps et qu'il veut retrouver sa mairie après. Alors oui, certainement, je suis complètement d'accord avec toi, je m'en fous pas mal hein, d'ailleurs de ce genre de raisons, mais oui, je suppose que François Bayrou a parfaitement conscience qu'il n'est pas là pour très longtemps et il veut retrouver sa mairie peinard, parce que je vous rappelle qu'il n'est pas député, François Bayrou. Mais quand bien même, enfin, je veux dire, François Bayrou pourrait tout à fait démissionner de son poste de maire de Pau, être remplacé par un de ses adjoints, puis être réélu maire de Pau après. Hein. C'est faisable, hein, c'est pas révolutionnaire comme truc. Hein. Parce que je vous rappelle que quand vous démissionnez de votre mandat de maire, vous êtes toujours conseiller municipal. Hein. Il y a pas de... Sauf si vous démissionnez de votre mandat de conseiller municipal, ce que vous pouvez faire aussi. Mais quand vous démissionnez de votre mandat de maire, vous êtes toujours au conseil municipal. Vous pouvez être réélu maire après. Hein. Il y a plein de maires qui ont fait ça. Édouard Philippe a fait ça au Havre. Édouard Philippe a fait ça au Havre, Christophe Béchu à Angers, etc. Mais c'est très bien. C'est très très bien. Quitte ton siège de maire, redeviens simple conseiller municipal et redeviens maire si tu veux et si ton conseil municipal le veut bien, après. Mais bon, en général, s'ils t'ont élu maire une première fois, c'est qu'ils sont avec toi. Surtout si t'as une aura nationale, machin et tout. Je ne doute pas un quart de seconde que le conseil municipal de Pau élira François Bayrou, maire de Pau, quand il aura quitté Matignon. Vraiment, aucune inquiétude pour François Bayrou sur ce coup-là.
Du coup, pourquoi il veut pas? Bah écoute, j'en sais rien, parce qu'il veut absolument rester maire, parce qu'il est arc-bouté et accroché à son mandat de maire. Et parce qu'il estime, au demeurant, il estime que c'est très bien. Enfin, moi, je suis critique de ça, mais c'est mon opinion. Lui, de son point de vue à lui, ce qu'il fait est une très bonne idée. Abandonner son mandat de maire serait une très mauvaise idée. Voilà, très bien. Comment ça se passe pour les pourcentages de travail quand tu es maire, premier ministre, pour la paye? Il n'y a pas d'horaire. Hein. Vous savez, quand vous avez un mandat ou une fonction, il n'y a pas de calcul horaire. Ça ne marche pas comme ça. Vous êtes investi d'un mandat, vous n'êtes pas payé à l'heure. Et en l'occurrence, pour le cumul des indemnités, il y a des règles et il y a des écrêtements. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas cumuler toutes les indemnités indéfiniment. Il y a un moment, ça s'écrète et vous ne pouvez pas gagner plus de temps. Justement pour éviter ça. Il n'y a pas d'heure sup et d'RTT. Non, il n'y a ni heure sup ni RTT, ce n'est pas un travail. Un mandat n'est pas un emploi. Vous n'avez pas d'employeur, vous n'avez pas de contrat de travail. Il n'y a pas le code du travail ou je sais pas quoi. Non, non. Ils ne cotisent pas pour la retraite? Si, ils cotisent pour la retraite parce qu'ils perçoivent une indemnité qui est soumise à cotisation. Il y a l'impôt sur le revenu tout de même. Mais bien sûr. L'impôt sur le revenu, ça ne s'appelle pas l'impôt sur le salaire. Ça s'appelle l'impôt sur le revenu. Que ton revenu soit un salaire ou une indemnité, tu déclares tes revenus. Tous tes revenus. Revenu immobilier, revenu locatif, revenu foncier, salaire, etc. Tu déclares tout ça. Et en fonction de combien tu déclares, bah, tu payes des impôts comme tout le monde. Ou une retraite, ou une pension de retraite aussi, oui. Salaire, traitement, indemnité, allocation, pension, il y a plein de revenus possibles qui ne sont pas du salaire, absolument. Les dividendes aussi, d'ailleurs, je crois que tu dois les déclarer dans ton impôt sur le revenu si tu touches des dividendes. Ça me paraît très logique, d'ailleurs, parce que les dividendes, alors quand on parle des dividendes, surtout à ceux qui ne connaissent pas très bien le monde des entreprises, etc., on a l'impression que les dividendes, c'est un truc d'ultra riche où les actionnaires qui ont des actions dans des multinationales touchent des dividendes à la fin du mois sur les bénéfices de la multinationale et tout. En fait, les dividendes, c'est simplement le revenu tiré du CA de votre entreprise, des bénéfices en l'occurrence qui sont redistribués. Il y a des artisans qui ne se payent pratiquement qu'en dividendes. Il y a des artisans qui touchent pas de salaire et qui, à la fin de l'année, se versent des dividendes pour voir venir l'année suivante. Ça existe, il y en a plein qui font ça. La plupart des petites entreprises. Bah, beaucoup de petites entreprises. Après, il y a des entreprises qui préfèrent faire des choix. C'est mon cas, par exemple. Je préfère me verser un salaire sur lequel je cotise, etc., plutôt que d'attendre la fin de l'année pour me verser éventuellement, si j'ai des bénéfices, un dividende. À choisir, moi, je préfère plutôt me verser un salaire. Pour une autre raison très simple, c'est que j'ai besoin de louer mon logement et que à Paris, si tu veux louer, il faut des fiches de paye. Et comme je suis pas chaud de les truquer, mes fiches de paye, je préfère faire des vraies fiches de paye. Perso, je suis en SASU et je mixe les deux, salaire et dividende. Ouais, ça peut être intéressant. Alors après, par ailleurs, il y a un truc que j'ai pas fait et que je pourrais faire, c'est aller voir un avocat fiscaliste et lui dire, bon, vas-y, dis-moi, c'est quoi le montage le plus... qui me rapporte le plus de fric? Tu me conseilles quoi? Parce que si ça se trouve, ce que je fais, c'est pas très efficace. Ça se trouve, je pourrais gagner plus d'argent
si je touchais un peu moins de salaire, mais un peu plus de dividendes, que je les déclarais, machin, et tout. Mais en fait, j'ai pas envie de jouer à ça, ça me saoule. Flemme perso. Ouais, voilà, flemme. Non, mais je suis comme toi, flemme. En fait, flemme. Giga flemme. Giga flemme de faire un montage, je sais pas quoi, pour économiser 10% à la fin de l'année parce que t'auras déclaré. Je suis un bon gars. Je suis pas un bon gars. Hein. Non, non, c'est, moralement, c'est pas supérieur. Hein. Je suis juste en train de perdre du pognon. Hein. Franchement. Vraiment. Les gens qui ont moins la flemme que moi et qui trouvent la manière de maximiser leurs revenus avec le même que CA, bravo à vous. Bon, bravo à vous. Tout dépend de combien représentent les 10%. Non, non, mais c'est sûr. Hein. Non, c'est certain, bien sûr. C'est vous dire à quel point. Alors déjà, ça représente pas des sommes faramineuses, loin de là, au contraire. Donc, franchement, si c'est pour à la fin de l'année gagner 100 balles, alors pour vraiment. Alors laisse-moi avec mon salaire tranquille. Au moins, je suis sûr de pouvoir retrouver un appart demain. Plutôt que de devoir expliquer à un proprio: ah non, mais en fait, mon salaire, il est très faible, mais c'est parce que je compense avec des dividendes à la fin de l'année. Donc, en fait, mon revenu, regardez ma déclaration d'impôt. Moi, ça me saoule. Je vais faire le filet des fiches de. Ça doit être mon réflexe d'ancien salarié. Ça doit être mon réflexe d'ancien salarié. Et voilà, moi, je filme mes fiches de paie. Je dis, regarde, voilà, je touche tant par mois. Est-ce que, s'il te plaît, je peux louer ton appart? S'il te plaît. J'ai pas de petit chat. Je vais pas le ruiner. Deviens proprio. Ouais, il faudrait que je fasse ça. Il faudrait que je. J'ai pas les moyens. Enfin, vraiment, hein, j'ai pas les moyens. Si je veux habiter à Paris, acheter un appart, c'est. Un appart dans lequel je peux installer mon studio pour tourner, etc., c'est tout de suite un demi-million d'euros. Moi, j'ai pas les moyens. Hein. Je vais vraiment. Si je vais voir un banquier et que je lui donne ma situation, il va me dire streamer ? C'est quoi ça ? Donc, vos revenus dépendent de ce que les gens sur Internet vous donnent ? Et vous croyez que je vais vous filer du pognon ? Sur 25 ans, Monsieur Massier, faut être raisonnable. Faut pas faire perdre du temps aux gens comme ça. Tu payes combien par mois ? Ici, je paye 1100 euros par mois. Charge comprise, ouais. Charge comprise. Et en vrai, c'est pas cher. Ah oui, il y a peut-être des provinciaux dans le chat qui pètent un plomb. Mais pardon, excusez-moi. Ici, voilà, j'habite à Paris. En vrai, quand je l'ai trouvé cet appart, j'étais un peu sur le cul, hein, en mode. Mais elle le sait, la propriétaire, qu'elle peut augmenter ou elle le sait pas. Enfin, je vais pas lui dire. Hein, je vais pas le. Enfin voilà, mais moi je trouve que ça va. Hein. En vrai, il aurait coûté 1300-1400 balles par mois. Je l'aurais pris aussi. Hein. Mais lui envoyez pas ce stream à ma proprio. Hein, lui envoyez pas ce. Voilà, vous me connaissez pas, je vous connais pas. Ça reste entre nous. Hein. Ça reste entre nous. Non, faut pas. C'est pas possible. Dites-lui, c'est pas possible d'augmenter le loyer. Mais non, c'est pas possible parce qu'il y a les nouveaux dispositifs fiscaux de la loi d'exception, de la loi spéciale, qui prévoit que. Si on augmente le loyer des appartements dans lesquels vivent et travaillent des streamers, alors on a une surcote de son impôt sur le revenu de 200%. Source TKT. TKT, je sais. J'ai regardé les débats parlementaires, je sais. Donc non, faut pas augmenter mon loyer, madame ma propriétaire, s'il te plaît. Par contre, si tu veux vendre ton appart... Pour pas trop cher. Mais alors vraiment pas trop cher, parce qu'il est un peu pourri, hein, on va pas se mentir. Mmh. Sur le cumul des mandats, tu es critique des indemnités cumulées que ça implique, ou plutôt les aspects difficilement cumulables des tâches et des différents mandats. Parce que je ne suis pas insensible à cet argument qu'il y a d'ancrage régional, réalité des difficultés locales. Perso, j'ai des responsabilités dans mon entreprise et aussi dans la direction d'une association. Un cumul des mandats encadré avec des règles, ça me paraît réalisable. Bien sûr. Évidemment. Moi, je suis critique de l'idée qui consiste à dire qu'un élu local est mieux ancré dans la réalité qu'une autre personne. Je vois pas. Je suis parfaitement d'accord pour dire que les maires et les élus locaux, déjà, j'ai beaucoup de respect pour ce qu'ils font et d'admiration, parce que le mandat local, c'est un mandat fabuleux. Et vraiment, je suis pas un anti-parlementariste, je suis pas un dégagiste, etc. J'ai beaucoup de respect pour les élus locaux. Je ne supporte pas que les élus locaux me disent que c'est parce que je suis maire que j'ai un lien avec mon territoire et les gens. Sous-entendu, un responsable associatif, un chef d'entreprise, un médecin, un boulanger, une caissière, un syndicaliste, eux, ils n'ont pas de contact avec la réalité, peut-être. Eux, ils ne savent pas ce que veulent les Français, peut-être. Enfin, tu vois, ça m'a toujours emmerdé, cet argumentaire-là. D'autant que, encore une fois, j'ai grandi dans un monde politique dans lequel il y avait énormément d'élus. Qui cumulaient et qui avaient des responsabilités locales, etc. Et spoiler alert, ils n'étaient pas mieux connectés à la réalité que vous et moi et que les députés d'aujourd'hui. Voilà. Je suis désolé, une Rachel Keke, elle n'est pas moins connectée à la réalité que le maire de la ville. Non. Voilà, je ne suis pas d'accord avec ça. Par ailleurs, si un maire veut être élu député, il n'y a aucun problème. Il peut se présenter à l'élection. S'il est élu, bravo à lui, il démissionne de son poste de maire. Et non, le fait de démissionner de son poste de maire ne va pas lui arracher son contact à la réalité. C'est pas parce que tu redeviens simple conseiller municipal que du jour au lendemain, en un claquement de doigts, tu perds tout contact avec le réel. Et je suis pas d'accord avec cet argument-là. L'idée que seuls les maires connaissent vraiment les vrais Français. Les autres, non. Et puis, il y a un problème de renouvellement de la vie politique. Enfin, je suis désolé, moi, la politique de carrière, c'est pas mon truc. Je n'aime pas les gens qui font carrière en politique. Je n'aime pas les gens qui n'ont connu que les mandats électifs. Je considère, pardon François Bayrou, oui, tu es maire de Pau, tu connais très bien la mairie de Pau, j'ai aucun problème avec ça. Ça fait 40 ans que tu vis à Paris, que tu as des responsabilités politiques nationales, me fais pas croire que tu es mieux au contact des Français sous prétexte que tu as le mandat de maire de Pau. Je suis pas d'accord. Je suis trop critique de ce que fabrique le cumul des mandats. Le cumul des mandats, ça fabrique des gens comme François Bayrou. 40 ans de vie politique. Et je dis pas que c'est un mauvais garçon, je dis pas qu'il a un mauvais fond, je dis pas qu'il n'y connaît rien aux Français. Non, je dis pas ça. Je dis juste que si on a que ça dans la classe politique, c'est un problème. Il y a un problème de déconnexion. Il y a un problème de déconnexion, il y a un problème de baronnie, il y a un problème de plafond de verre, il y a un problème de renouvellement, il y a un problème de rajeunissement, il y a un problème de féminisation de la politique. Tous ces problèmes-là, ils existent aussi à cause du cumul des mandats. Comment ça, problème de féminisation ? Ben, il n'y a pas assez de femmes en politique par rapport à la réalité de la population française. Ça progresse, je reconnais que ça progresse, ça s'améliore, C'est une bonne chose. On est sur la bonne pente. Je crois que ça a légèrement reculé en 2024. Le nombre de femmes à l'Assemblée. Je me souviens avoir lu des articles après les élections qui disaient ça. Mais on est quand même globalement sur une pente d'amélioration de la féminisation. Le rajeunissement aussi est en voie. On a eu un fort taux de rajeunissement avec les macronistes en 2017. Où il y a une nouvelle génération de députés qui, pour beaucoup, étaient des novices en politique, qui sont arrivés et ça a bien fait chuter l'âge moyen de l'Assemblée nationale. C'est pas encore parfait. C'est encore un peu âgé. Il faut continuer à rajeunir. Il faut continuer à présenter des jeunes aux élections. C'est aussi le rôle des partis, hein, d'investir des jeunes dans les élections. Cumul des mandats, c'est un cumul des salaires ou pas? Alors, c'est pas des salaires, c'est des indemnités. Oui, il y a un cumul des salaires, il y a un cumul, pardon, des indemnités quand on cumule les mandats, mais je me souviens plus de la règle exactement, mais il y a un écrêtement qui est décidé. La loi prévoit que tu peux pas cumuler les salaires les uns sur les autres, pile poil. Au bout d'un moment, en fait, il y a un écrêtement qui fait que tu peux pas cumuler tous les revenus comme ça, ça marche pas comme ça. Surtout cumul des retraites, elles sont pas écrêtées. Oui, en plus. Ils peuvent refuser, par exemple, dans le cas de Bayrou, refuser l'indemnité de maire tant qu'il est Premier ministre. Oui, mais ça change rien, ça. Le problème, c'est le mandat. Et puis, par ailleurs, il y a aussi un problème, excusez-moi, qu'il y a un problème d'occupation de son temps. Les députés qu'on élit, c'est pas des députés à mi-temps. Moi, mon député, je veux qu'il soit à plein temps député. Je veux pas qu'il m'explique, en fait, je suis député sauf le vendredi, parce que le vendredi, je suis conseiller municipal. Le jeudi aussi, je suis au conseil départemental, je suis vice-président. Non, en fait, je... Regardez, quand l'hémicycle est clairsemé, qu'il y a des absents, etc., parfois, il y a des gens dans le chat qui débarquent et qui disent « Qu'est-ce que c'est que cet absentéisme? C'est scandaleux, etc. » Et moi, vous me connaissez, je leur explique à chaque fois. Non, c'est plus compliqué que ça. Les députés ne sont pas députés que quand ils sont dans l'hémicycle, ils sont députés quand ils sont en réunion de commission, quand ils sont dans leur bureau, quand ils sont au téléphone, quand ils sont en train d'envoyer des mails, quand ils sont sur le terrain en déplacement, quand ils sont en train de faire une commission d'enquête, une mission d'information, etc. Tout ça, c'est être député. Donc si vous ne voyez pas votre député dans l'hémicycle, n'en déduisez pas qu'il est en train de rien foutre, il est en train de faire autre chose que d'être dans l'hémicycle. Et c'est normal pour la vie d'un député, etc. Quand il y a le cumul des mandats, je peux pas vous répondre ça. Quand il y a le cumul des mandats, je suis obligé de vous dire « Ah ouais, il y a des députés qui sont pas là. Bah, ils sont peut-être en train de s'occuper d'autre chose, en fait. » Bah ouais. Là, à l'heure qu'il est, ça se trouve, il est dans son bureau de maire, en train de gérer des problèmes locaux dans sa mairie. Désolé. Ton député, il est pas complètement député, en fait. Et pareil, on retourne le truc dans l'autre sens. Qu'est-ce qu'il fout mon maire? À l'heure où je vous parle, il est 16h56, on est mardi. Bon, bah, j'espère que mon maire, il est maire, là, en fait. Je sais pas, parce qu'il est en train de foutre, je m'en fous. Il est au téléphone, il est en réunion, il est en rendez-vous, il est en déplacement, il est en train de faire des rencontres et tout, peu importe. Mais j'ai pas envie que mon maire, il soit à Paris, en train de voter des lois. Mais en fait... Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Enfin, j'étais élu pour être maire, j'étais pas élu pour être à Paris en train de voter des lois. Donc voilà. C'est vrai qu'on n'élit pas directement le maire, c'est le conseil municipal, effectivement. Donc voilà, y a un problème d'emploi du temps, il y a un problème de paysage politique que ça fabrique, parce que ça fabrique un paysage politique, le cumul des mandats. On ne peut pas dire que c'est neutre. Ça fabrique aussi un problème de renouvellement au niveau territorial. Encore une fois, la baronnie, ça a existé. Regardez Baron Noir. Ça a été, et ça existe encore aujourd'hui d'une certaine manière. Il y a des élus qui sont tout puissants en leur royaume, qui sont à la tête du conseil départemental, à la tête de la fédération du parti, maire de la ville de Truc, qui est la plus grande ville du département. Autant te dire que le mec, il a droit de vie et de mort sur tout le monde. Enfin, non, c'est, évidemment, c'est pas ça, mais il décide seul de tout ce qui se passe. Regardez les Georges Fraîche. Regardez les Laurent Fabius. Regardez les... je sais pas, moi. Les mecs tout puissants. Et en l'occurrence, je vous parle spécialement des socialistes, parce que c'est ceux que j'ai le mieux connus. Mais c'est exactement pareil à l'UMP. Hein. L'UMP, il y avait des indéboulonnables. Vraiment, les mecs, ils étaient les rois dans leur royaume. Je décide. À l'époque, je me souviens, c'était une blague qu'on me disait dans les... merde, Laurent Fabius, c'était... Son département, c'était... Dans la Seine-Maritime, voilà. La Seine-Maritime, département de Laurent Fabius. La blague, c'est qu'en interne, en interne, le surnom de Laurent Fabius, c'était Dieu le Père. C'est son petit surnom. Tellement même en interne, tout le monde trouvait ça ironique que le mec, juste, en fait, il n'y a pas un fucking rond-point qui est construit dans ce département sans que le mec ait personnellement donné son accord, quoi. Donc, je vous jure que ça donnait pas envie, cette époque-là. Je vous jure que ça donnait pas envie. On n'a pas envie de revivre ce moment-là où on avait des barons tout-puissants qui faisaient des carrières politiques, qui étaient indéboulonnables, qui faisaient et défaisaient les carrières politiques dans leur département, etc. Un peu de renouvellement, un peu de flexibilité, un peu de fraîcheur, un peu de spontanéité, un peu de citoyenneté. Le temps des bons pères de famille. Ouais, non, mais c'est... Enfin, évidemment, c'est des gens qui sont convaincus de bien faire. Hein. C'est des gens qui sont convaincus de bien faire. Moi, j'ai des souvenirs au moment de l'abolition, justement, du cumul des mandats, au moment du vote de la loi. À l'époque, c'était les socialistes qui étaient au pouvoir. Et les socialistes ont déposé un projet de loi pour mettre fin au cumul des mandats. Autant vous dire que ça gueulait en interne au PS. Hein. Interne au PS, il y avait des barons qui disaient que cette idée... oui, bon, d'accord, c'était dans le programme du candidat, mais enfin bon... pas trop d'accord, etc., machin. Et je me souviens, il y avait un maire qui était député-maire, je crois. Oui, il était député-maire. Il était venu me voir, il m'expliquait, mais Jean, tu te rends pas compte, les gens me demandent de cumuler. Les gens veulent que je cumule. Pour eux, c'est hyper important. Limite, ils viennent frapper à ma porte la nuit pour me le demander. Tu vois, j'étais en mode, mais calme-toi, personne demande ça. Personne demande à son maire, est-ce que vous, s'il vous plaît, vous pourriez cumuler les mandats. Enfin, tu vois, c'est... Et quand il dit les gens, t'as l'impression qu'il parle de ces gens. Genre, c'est mon bon peuple que j'aime tant. Je suis là pour eux. Ce serait un abandon en race campagne. Et alors, pareil, dans le genre drogué au mandat, vraiment, ça existe. Hein. Y a des personnes qui sont droguées au mandat politique, qui ont l'impression... Je me souviens d'une candidate qui essayait de se départir pour être reconduite dans sa circonscription et qui était quasiment en larmes en disant « Je ne peux pas abandonner les gens. Je ne peux pas abandonner les gens. Je me suis battu pour eux pendant 20 ans, ce qui est vrai. Ne pas me représenter, c'est les lâcher en race campagne à un moment où le monde est un tourbillon. C'est gravissime. Je ne peux pas faire ça. » Et elle était en transe. Elle était convaincue que vraiment, ce serait criminel de ne pas se représenter à l'élection pour un, je sais pas, cinquième, sixième mandat. Ouais, ils ont une mission divine. Ils ont une mission divine. Et encore une fois, je ne veux pas les critiquer, psychologiser le truc, etc. Ces gens-là sont des militants. Il faut aussi reconnaître ça. Quand elle dit « je me suis battue toute ma vie pour cette circonscription », c'est vrai. C'est vrai. Elle s'est levée tous les matins à 7h du mat pour aller se battre politiquement, défendre son bout de gras, défendre sa circo, défendre les intérêts de ses électeurs, de sa population, etc. Machin. C'est vrai. C'est effectivement des gens qui ont le sens de l'intérêt général au sens du combat politique, avec la noblesse que ça a derrière, et qui sont investis d'une mission de combat, quoi. Donc, il faut pas retirer ça aussi aux élus. Il ne faut pas retirer aux élus le fait que, effectivement, ce sont les avocats d'un territoire, ce sont des gens convaincus, ce sont des gens qui, de bonne foi, en tout cas de leur point de vue, défendent ce qu'ils estiment être l'intérêt général. Après, on peut être d'accord avec eux ou pas, mais eux, en tout cas, en sont convaincus. Donc, voilà, c'est pas, il ne faut pas les humilier, il ne faut pas dire que, c'est des personnes qui ne représentent plus rien, etc. En revanche, dire que le cumul des mandats est une espèce de nécessité qui fait que si on n'a pas ça, on n'est pas vraiment un avocat de son territoire, etc., je ne suis pas d'accord. Je vois pas pourquoi, si demain matin, François Bayrou démissionnait de son mandat de maire de Pau, il arrêterait d'être un militant de Pau. Pourquoi il changerait d'avis dans la nuit? Pourquoi? Non. Il connaît les habitants de Pau, il discute avec eux, il peut toujours continuer à le faire, j'ai aucun problème avec ça. Il connaît leurs préoccupations, etc. Très bien. Il a été maire pendant des années. Très bien. Tout à fait respectable. Mais c'est pas parce que t'arrêtes d'être maire que tu lâches les gens, que tu les abandonnes, etc. Et en plus, il peut rester conseiller municipal. On en revient à ce que je disais tout à l'heure. Franchement, je vois pas en quoi le mandat de maire est le seul qui donne comme ça le lien avec les gens. Je vois pas pourquoi un conseiller municipal il serait moins concerné par les gens que le maire. Je suis pas d'accord avec ça. Est-ce que dans le cumul des mandats tu peux être adjoint au maire ou conseiller municipal et député? Aujourd'hui, ce qu'il y a dans la loi, c'est l'incompatibilité entre le mandat de député et le mandat exécutif local. Et un mandat exécutif, bah, c'est les gens qui dirigent effectivement, c'est-à-dire le maire et ses adjoints. Voilà. Mais par contre, les conseillers municipaux ne sont pas dans l'exécutif municipal. Ils sont conseillers municipaux. Conseiller municipal... quand tu es conseiller municipal, tu peux t'impliquer dans ton mandat. Tu peux passer des heures, toute la journée, à discuter avec les gens, écrire des courriers. Tu peux, tu as le droit. Enfin, c'est un peu bénévole, mais tu as le droit. À minima, tu dois aller au conseil municipal qui a lieu au moins 3 fois par an, parfois une fois par mois, et voilà, tu vas au conseil municipal, tu prépares ton conseil municipal, tu prends la parole, tu gueules, tu fais ton boulot d'élu, et ça, tu peux être député. Ça, c'est tout à fait possible, non ? Donc si Guiraud remporte Roubaix, il doit démissionner de l'Assemblée. Non. Si la liste conduite par Guiraud arrive majoritaire aux élections municipales de la ville de Roubaix, David Guiraud doit soit démissionner de son mandat de député pour pouvoir être élu maire de Roubaix, soit ne pas se présenter pour être maire de Roubaix et rester député. À ce moment-là, le conseil municipal de Roubaix élira quelqu'un d'autre que David Guiraud. Et c'est valable pour tous les députés. Enfin, voilà. C'est valable pour tous les députés. Le point sur lequel je suis assez d'accord avec lui, c'est sur le fait de pouvoir parler avec les habitants. Certes, je suis représenté par mon député dans ma vie, mais ma vie est sans doute plus similaire à celle d'un habitant de Pau que celle de mon député. Le fait qu'il puisse discuter avec des gens comme moi lui permettra peut-être de prendre de meilleures décisions. Il y a sans doute mieux que le cumul des mandats pour toutes les raisons que tu donnes, mais en tout cas, je comprends son discours. Totalement d'accord avec toi. Totalement d'accord avec toi. Mais il n'y a absolument rien dans ce que tu dis qui plaide en faveur du fait qu'il ait un mandat. C'est pas parce que t'es maire que tu parles avec les gens. C'est parce que t'as envie de parler avec les gens que tu parles avec les gens. Les conseillers municipaux qui sont pas maires, tu crois qu'ils parlent avec personne? Bien sûr que si, ils parlent avec les gens. Tout le monde, c'est normal. Je suis complètement d'accord avec toi sur le fait que les députés doivent échanger avec les gens, doivent faire partie de la vie de leur circonscription, de leur département, aller rencontrer les agriculteurs, rencontrer les associations, les salariés en lutte, en grève, etc. Ça fait partie de la vie naturelle et normale du député. Je me souviens que les députés étaient allés sur les ronds-points au moment du mouvement des Gilets jaunes. Vu qu'il y en avait dans toutes les circonscriptions, les députés, ils se sont dit, on va y aller. On va aller rencontrer les gens, on va serrer des mains, on va parler, juste parler en fait. Pas forcément distribuer des tracts et tout, juste discuter avec les gens, qu'est-ce qui vous amène ici, pourquoi vous êtes en colère, expliquez-moi, etc. T'as pas besoin d'être maire pour faire ça. T'as besoin d'être démocrate par contre, ça je suis d'accord avec toi, c'est là où je suis d'accord avec toi. La proximité avec la population, je suis pour 1000 fois. Mais il n'y a pas besoin d'être maire pour être proche de la population. C'est pas vrai. Ma femme a reçu un député à son travail au mois de novembre. Il avait l'air humain et de s'intéresser à leur cause. Et vous savez, les députés, beaucoup d'entre eux, c'est avant d'être des idéologues, c'est des pragmatiques aussi. C'est des gens. C'est un truc que j'ai toujours défendu, que je vous ai toujours expliqué, c'est que pour faire de la politique, il faut aimer les gens. Ça, si vous êtes renfrogné, si vous êtes misanthrope, effectivement, faites pas de politique. Parce que la politique, ça va consister essentiellement à rencontrer plein de gens. Souvent. Échanger. Discuter. J'avais un pote qui est sorti de Sciences Po, m'avait dit, je sais pas si j'ai envie de devenir député ou pas. Je lui avais dit, si tu veux savoir, va au marché. On était à côté du marché en plus. Je lui dis, va au marché et va parler avec des gens. N'importe qui. Va parler avec des gens. Avec des vieilles dames, avec leur cabas et tout. Leur demander comment elles vont, etc. Enfin, je sais pas. C'est pas faire de la politique, ça. C'est juste, est-ce que t'aimes bien les gens? Est-ce que t'aimes bien parler avec les gens? Est-ce que t'aimes bien connaître leurs difficultés, leur vie, etc. Si c'est pas ton truc, t'as le droit. Y a aucun problème. Hein. C'est obligé pour personne. C'est un peu idéaliste, ça. Écoute, j'ai jamais rencontré de politique misanthrope, hein. Politique, en général, ils aiment bien ça. Vraiment, c'est un truc qui leur plaît, de parler, d'échanger, discuter, écouter, rencontrer, etc. Sauf Macron. Ah, Macron, il adore les gens. Macron, il adore les gens, il est juste convaincu qu'il faut leur parler. Il est pas très fort pour écouter. Il est un peu meilleur pour leur faire la leçon et leur expliquer. C'est-à-dire que Macron, un mec qui lui dit « j'ai pas de boulot », plutôt que de lui dire « ah oui, ça doit être difficile pour vous, monsieur », il lui dit « du boulot, je vous en trouve, il suffit de traverser la rue ». Voilà, typiquement, c'est ce genre de phrase, t'es en mode « bon ». Donc voilà, mais c'est dans un département, dans une circonscription avec un député de droite, s'il y a une grève dans une usine, c'est pas impossible que le député il aille rencontrer les grévistes. Hein. Ça veut pas dire qu'il adhère à la CGT. Il dit, mais en fait, j'ai envie de leur parler. Apparemment, il y a une difficulté dans ma circonscription, il y a une usine, il y a des risques sur les emplois, etc. Je vais rencontrer les gens. Comment allez-vous? Expliquez-moi, vous avez appris... qu'il y avait un plan de licenciement qui était prévu, ok, combien de postes, ok, d'accord, merde, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider? Enfin voilà, c'est... D'ailleurs, ça arrive souvent que des députés de droite à l'Assemblée prennent la parole pour défendre des emplois dans leur circo. Hein. Trouver un repreneur pour l'usine, etc., mettre l'État autour de la table si nécessaire et tout. Inversement, si nous on veut aller causer à nos députés, on fait comment? Alors tu peux les contacter par mail, tu peux les contacter sur les réseaux sociaux, et tu peux te rendre à leur permanence parlementaire dans la circonscription dans laquelle tu habites. Il y a une permanence parlementaire. Il faut que tu trouves l'adresse sur Google, et tu peux t'y rendre pour rencontrer soit ton député, soit son collaborateur ou sa collaboratrice. J'ai un ami qui a écrit à son député Horizon pendant la réforme des retraites pour protester. Le député est venu chez lui pour discuter. Ben, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Si vous voulez proposer un café à votre député, n'hésitez pas. Hein. Enfin, il y en a plein qui sont partants. Enfin, oui. Prendre le temps de vous écouter, discuter, etc. Ils savent faire. Hein. Les gens font grève parce que l'État ponctionne et nous vole trop d'argent. Alors les grévistes en général, c'est pas tout à fait ça leur revendication première. Même plutôt un peu l'inverse. Tout mon respect pour les militants communistes, évidemment. Le mien était venu au resto de mes parents, c'était intéressant. Grave. Alors par ailleurs, sachez que si vous faites un truc chez vous, je ne sais pas où vous habitez, mais si vous faites un truc, si vous avez une association, si vous organisez un festival avec des gosses, si vous organisez un match de foot caritatif, si vous participez à je ne sais pas quoi, etc., n'hésitez pas à inviter votre député, hein. Il sera super content de venir. Hein. En général, dès qu'il y a des gens, il est content. Venir serrer des mains, vous remercier, etc. Enfin, non, vraiment, n'hésitez pas. Hein. Alors, si vous le détestez, ne l'invitez pas, évidemment, vous n'êtes pas obligé. Hein. Mais... serrer des mains, faire des photos, et s'il y a de la presse, c'est encore mieux. Clairement. Non, mais clairement. Clairement. Donc... Petite presse locale. Ouais, inviter la presse locale aussi. Donc non, n'hésitez jamais à parler à votre député. Hein, franchement. Alors, par ailleurs, si vous croisez votre député, encore une fois, sauf si c'est quelqu'un que vraiment vous détestez, hein, vous n'êtes pas obligé, mais si vous croisez votre député, n'hésitez pas à aller lui serrer la main et lui dire bonjour. Hein. ça pique pas, ça mange pas de pain, ça sert pas à grand-chose, mais voilà. Et vous faites quoi dans la vie? Racontez-moi, c'est sympa, vous habitez ici depuis longtemps. Je vous avais raconté la première fois que j'avais cherché du boulot. Ma première tentative pour trouver du taf. Parce que moi, j'ai fait des études pour devenir collaborateur de cabinet. Mais faut savoir que j'ai absolument aucun passif en politique. En fait, je connais personne en politique. Moi, je suis pas pistonné. Mes parents font pas du tout de politique. Personne dans ma famille fait de la politique. Ou alors c'est pas du bon côté. donc moi, j'ai vraiment débarqué à Paris. Je connaissais son père. En plus, j'ai même pas grandi à Paris et tout. Donc j'étais en mode vas-y. Je vais essayer. Et je cherchais un stage. À l'époque, je cherchais un stage. Un stage de collaborateur de cabinet pour un élu. Et je m'étais dit, tiens, bah, j'habite dans le 9e arrondissement. À l'époque, j'habitais dans le 9e arrondissement. J'y habitais pendant 10 ans. J'adore cet arrondissement. Et le maire, c'était un maire socialiste. Il s'appelait Jacques Bravo. C'était le maire du 9e. C'était un socialiste. Je me suis dit, très bien, Je vais essayer d'aller le rencontrer. Alors, je vais pas faire ça comme un porc en demandant un rendez-vous, machin. Non, je vais me pointer à une réunion de la section locale du Parti Socialiste. Donc meilleur moyen pour trouver des élus, tu vas au parti, tu verras bien et tout. Ça tombe bien, il y avait une réunion le vendredi suivant. Je dis, très bien, je vais me pointer. J'avais regardé sur Internet la tronche de Jacques Bravo, les gens un peu du PS local et tout machin, j'arrive à la section du PS, c'est une réunion de section du PS quoi, donc on se fait chier, ça dure une plombe et tout machin, moi je suis assis au fond, j'ai mon CV avec moi dans ma poche, machin, j'écoute, je ferme ma gueule, je connais personne, et à la fin évidemment de la réunion, y a un petit verre que offert quoi, le verre de l'amitié, le verre de la camaraderie, c'est normal. On débouche une petite bouteille, on est entre nous quoi, c'est normal. Et donc moi je suis là avec mon petit gobelet en plastique dans un coin, je connais son père, et il y a un vieillard qui vient me voir, un vieux monsieur, qui se rapproche de moi, qui me dévisage et qui me dit t'es nouveau toi, je t'ai jamais vu. Et je lui dis, ah bah, effectivement, oui, c'est la première fois que je viens. Il me dit, ah bah, très bien, t'habites où? Je lui dis, bah, j'habite dans le 9e. Il me dit, oui, merci. Mais dans quelle rue? Je lui dis, bah, j'habite dans la rue Machin. Et là, il me dit, ah, mais la rue Machin, c'est celle où il y a le coiffeur truc, et à l'angle, il y a le chinois Machin, c'est ça? Et moi, je lui dis, ah bah, ouais. Pour moi, ma rue, elle était insignifiante. Hein. Je lui dis, dis donc, vous connaissez vachement bien le 9e arrondissement. Et là, il me regarde, il me fait, un maire se doit de connaître son territoire. J'avais pas reconnu le maire. J'avais pas reconnu le maire. Autant te dire que j'ai gardé mon CV dans ma poche. Hein. J'ai fait une croix sur ce stage-là. Le mec qui se pointe à la section locale, qui connaît pas le maire du territoire dans lequel il espère faire un stage, ça dégage. Donc, je me suis senti extrêmement con. C'était ma rencontre avec le maire du 9e arrondissement. Autant vous dire que je n'ai pas fait de stage à la mairie du 9e arrondissement de Paris. Du tout. Mais la morale de l'histoire, c'est que regarde Jacques Bravo, maire du 9e, socialiste, etc. Vieux briscard du PS à qui on l'a fait pas, hein, Jacques Bravo. Il est à la réunion de la section locale du PS. Il connaît tous les militants qui sont là. Évidemment, c'est la section locale du PS, il est maire PS, il connaît tout le monde. Il tutoie tout le monde, il connaît les prénoms de tout le monde et comment va ta femme, etc. À qui est-ce qu'il est allé parler, le mec, à la fin de la réunion? La première personne vers qui il s'est tourné, c'était moi. Le mec qui est jamais venu, le nouveau. C'est ça aussi faire de la politique, tu vois, il aurait pu papoter avec un milliard de personnes, non, il a préféré dire « Attends, mais lui, il est nouveau, je te connais pas, bienvenue, enfin, salut, t'es qui, tu viens d'où et tout ?» Ben voilà, ça c'est un bon politique, tu vois. La secte recrute, ouais, c'est un peu ça. Ouais, parce qu'en plus, t'aurais vu la gueule de la réunion, c'était pas sûr que j'y revienne. Hein. Attendez, excusez-moi. Bon, je vais vous laisser, les copains. C'est la livraison. C'est livraison Massier ministre. Ah, je suis peut-être dans le gouvernement. C'est Jacques Bravo qui m'appelle. Non, il est décédé, Jacques Bravo. Je suis désolé. François Bayrou. Ouais, François, je te rappelle, François, mais là, faut que je dise au revoir au chat. Tu sais ce que c'est, on peut pas cumuler ministre et streamer. Hein. Il y a un moment, Non, mais je peux pas. Hein. Je vous fais des bisous. Merci les copains d'avoir été là. Je vous dis à demain. On va faire une revue d'actu du coup, on va lire des articles et tout, on va checker un peu la composition du gouvernement si elle est annoncée, les rumeurs, tout ça, et qui sait, je serai peut-être dans le gouvernement, on verra bien. Des bisous.